Moi, ce que je dis toujours, c'est que les jeunes, ils devraient pas y en avoir. Et puis c'est tout.
Hey, je veux dire à tous nos amis qui partent bientôt en vacances de ne pas oublier de mettre dans leur bagage une brosse à dents neuve.
Vive la cuisinière à tout continu.
Terminons ce tour d'horizon par une note réconfortante.
Je vous demande de vous arrêter.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Avec votre équipage habituel, Jeanne Padawan et Olivier, Jack Marshall, l'homme à tout faire, Mafalda la voyante, Pierre Filantia, notre maître nageur, Vincent Turban, mélomane invétéré, et bien sûr, à la barre, l'étrange Captain Nifle.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à bord de notre paquebot et bien dépêchez-vous de rester jeune. Nous sommes le mardi 6 mai 2025, il est 15h01. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4 et notre navire quitte le joli village de Sourdeval en Normandie pour se rendre avec légèreté en direction de Marseille. Embarquez avec nous aujourd'hui deux invités qui naviguent sur les mêmes rives de l'humanité. Christina Rosmini, bonjour.
Bonjour.
Nous parlerons dans la seconde partie de l'émission de ton nouveau spectacle créé autour de ton album intitulé Inti, que tu joues tous les mardis soirs à 21h à la Divine Comédie, non loin des Folies Bergères, jusqu'au 7 juin.
17, oui.
17 juin. Très bien, merci. Et Bernie Bonvoisin, auteur, chanteur, réalisateur pour le cinéma et documentariste. C'est justement pour cette dernière activité que nous te recevons aujourd'hui. Ensemble, nous évoquerons les trois films que tu as réalisés pour la télévision au cours des 10 dernières années. Vincent Turban, notre mélomane invétéré, est monté sur le pont, a enfilé sa marinière et ses lunettes de soleil. Bonjour Vincent.
Absolument. Bonjour.
Comment vas-tu?
En pleine forme.
Quel sera le sujet de ta chronique aujourd'hui, dis-nous tout.
Ike and Tina Turner.
Ouh là là, ça va chauffer, c'est très bien ça.
Ah, très, carrément,
très,
ouais.
Très, très bien. Pauline Chauvet a pris place à nos côtés et nous en sommes ravis. Bonjour Pauline.
Bonjour, je suis l'habituée.
Oui, bah, c'est ça, tu fais partie de l'équipage dorénavant. Voilà. Je salue confraternellement Jack Marshall et Pierre Filantia, restés au port, car ils avaient un cours d'aquaponais non modifiable. Et tous ensemble, nous adressons quelques chaleureuses bises parisiennes à Jeanne, qui nous regarde nous éloigner depuis le quai. Ne t'inquiète pas, nous savons où se trouvent les canots et gilets de sauvetage en cas d'avarie. Ce bel aéropage est placé sous l'autorité joyeuse et décontractée de l'étrange Captain Nifle.
Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Il chantait « Au nom de la rage » il y a déjà 45 ans. Aujourd'hui, la rage est intacte, la révolte toujours présente et le combat à mener plus fort que jamais. Bernie est un indigné, un homme qui voit le monde tel qu'il est et non, malheureusement, tel qu'il aimerait qu'il soit. Au nom de la rage, j'ai grimacé. Cette grimace, c'est celle du dégoût qui se colle au visage lorsque dans un hoquet, le désespoir du monde vous apparaît comme une nausée vous remonte du fond de la gorge. Bernie, est-ce que aujourd'hui, il t'arrive encore de perdre ton sang-froid face à ce monde?
Oui, non, c'est un... Moi, je suis traversé par des choses qui me bousculent et voilà. Je peux pas rester.
Tu peux pas rester indifférent.
Oui, je peux pas rester dans. Je peux pas rester dans une bulle. Enfin, je vois pas comment comment on peut être insensible et encore plus là depuis quelques années, quoi. Mm-hmm. À tout ce qui se passe, à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend aussi.
Alors comme je l'ai dit dans la présentation, tu as une activité, une corde supplémentaire à ton arc depuis une petite dizaine d'années, celle de documentariste.
Ouais.
Et dans le premier documentaire que tu as réalisé en 2016 sur les réfugiés syriens dans les camps de réfugiés qui se situent au Liban, tu ouvres ce documentaire en disant j'ai bougé mon cul, je suis sorti de mon divan pour aller voir.
Ouais.
C'est quoi l'étincelle qui a déclenché chez toi?
Bah, en fait, depuis ado, je me suis toujours intéressé voilà, à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et puis j'aime la culture de ces pays, j'aime l'histoire de ces pays, les gens, enfin voilà, l'art de vivre. Enfin, je trouve qu'il y a des, Ces gens préservent des choses que nous on a laissées sur le bord de la route. Bref. Et donc je suivais j'espère, comme beaucoup de gens, le conflit syrien. Et parmi toutes les choses que j'ai pu voir, j'ai vu un soir un reportage de la BBC, c'était à Alep. C'était en 2015, en 2016, début 2016. Et c'était, il y avait une petite fille de, je sais pas, 5-6 ans, qui était assise sur un muret et qui expliquait aux journalistes, on entendait les bruits de roquettes et de missiles, machin, et elle identifiait au son les trucs qui étaient jetés, quoi.
Carrément.
Donc j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc à un moment, elle sort dehors, elle joue au ballon. Et elle explique au type que elle peut pas dépasser cette limite-là parce qu'il y a des snipers et que si elle dépasse là, elle peut prendre une balle, quoi. Voilà. Mm-hmm. Son père est chef d'une katiba, quoi, de quartier. Mm-hmm. J'ai trouvé ça très très à la fois violent et puissant, quoi. Et donc je suis allé sur mon ordinateur. Mm-hmm. J'ai écrit 10 lignes que j'ai envoyées chez Première Ligne.
Okay.
Et donc à l'adresse de Paul Moreira. Mm-hmm. Parce que je regardais beaucoup, je trouve que Paul est un immense journaliste de par son travail, mais comme d'autres, comme Stéphanie Damory, comme tous ces gens-là. Et je trouve que ce sont ces gens-là aujourd'hui qui nous font vraiment de la formation encore, qui le font vraiment. C'est des gens qui vont sur le terrain, qui vont. Voilà.
Paul Moreira, qu'on retrouve souvent dans Cache Investigation,
voilà.
Envoyé spécial.
Voilà, mais c'est un grand reporter. Et donc il a monté une agence avec un monsieur qui s'appelle Luc Herman, qui lui aussi est un grand journaliste, qui est le premier type qui a fait les interviews d'Assange et tout ça. Et donc j'envoie à cette agence Première Ligne mon petit résumé de 10 lignes, de faire un truc, la guerre au travers des regards des enfants, quoi. Et je laisse mes coordonnées et tout. On est ça, c'est le vendredi soir. Le samedi matin, à 9h du matin, mon téléphone sonne et j'ai Paul Moreira au téléphone. Il est place Maïdan à Kiev. C'est pendant la révolution en Ukraine. Il me dit, écoute, j'ai lu ton truc. Je trouve ça mais hyper intéressant qu'un type comme toi propose de faire un sujet pareil. Il m'a dit, moi, c'est OK. Donc, il m'a dit, contacte Luc Herman, qui est à Paris. Donc, je suis allé voir Luc Herman. Pareil, il m'a dit, on va voir. On a débat. Il m'a dit, je vais d'abord démarcher auprès d'Arte. Mais Arte faisait beaucoup de thématiques sur la Syrie, sur tout ça. Et finalement, dernier ressort, il m'a dit, écoute, allons voir les filles à France 2.
Lucet.
Élise Lucet, et je ne me souviens plus, la deuxième, Génonte. Et donc, on s'est rencontrés, je ne sais pas, une demi-heure. Donc, déjà, quand je suis rentré au bureau, j'étais assez heureux parce que c'était fan de Trust, les deux.
Oui.
Donc, elles m'ont fait un truc genre hystérique. Hein.
Ouais.
Et puis, on a discuté. Uh-huh. Et puis, à un moment. Non, c'est pas Élise Lucet, c'est Guylaine Chenu.
Guylaine Chenu, voilà. À l'époque.
C'est envoyé spécial.
Envoyé spécial, Guylaine Chenu, exactement.
Envoyé spécial. Et donc, Guylaine m'a dit, écoute, t'es en colère, montre-nous ta colère.
Uh-huh. Voilà. Alors, comment on montre sa colère dans un documentaire quand on n'a jamais fait de documentaire ?
J'ai fait à ma sauce, j'ai fait à ma main, quoi.
T'es parti avec un cadreur ?
Je suis parti avec un cadreur.
Vous étiez deux, une équipe légère ?
On était deux, on avait un fixeur, une femme qui s'appelle Janine Jalk, qui s'occupe de la politique intérieure au Liban, à Lorient le jour. Mm-hmm. Une femme superbe qui justement est. Ces gens qui aujourd'hui ont la quarantaine, cinquantaine, enfin, ce qui, comme ils disent, sont les enfants de la guerre, quoi. Et donc, moi, je lui ai expliqué que ce qui m'intéressait, en fait, c'était d'être dans tout ce qui était en dehors des ONG officielles et tout ça, mm-hmm. quoi. D'aller bord cadre. Mm-hmm. Et donc, on est allé bord cadre.
Oui. Tu as ramené un documentaire qui est tout à fait bouleversant de ces témoignages d'enfants, qui vivent dans des conditions d'une grande, enfin, d'une grande précarité, d'une grande pauvreté.
Oui, même si on le filme et tout, c'est difficilement descriptible. En plus, on peut pas tout monter dans un documentaire. Mm-hmm. Mais franchement, j'ai vu des choses. Ça dépasse l'entendement, quoi. Oui, il y a vraiment ma vie avant ça et ma vie après, quoi.
Oui, voilà. Ça a bouleversé.
Ah ouais, totalement. Ouais. Totalement. Déjà, j'ai mis 8 mois à m'en remettre. Parce que forcément, t'es impacté. Mm-hmm. J'ai vu des choses ultra violentes, mais vraiment ultra violentes. Mais voilà, c'est comme ça, les choses se passaient comme ça, quoi.
Ce qui est étonnant à travers ce documentaire, qui est évidemment tout à fait bouleversant, et comme je le disais tout à l'heure, ces vies précaires d'une grande pauvreté, c'est dans les yeux des enfants que tu as filmé, il y a malgré tout un espoir, il y a...
Alors, ça a été très étrange, parce qu'au départ, je pars, moi, là-dessus, le conflit vu au travers du regard des enfants, et j'arrive dans la plaine de la Beka, près d'une ville qui s'appelle Zahalé, et on est dans un camp qui s'appelle Faïda, et on rencontre une femme qui s'appelle Maria Assi, qui est, je pèse mes mots, une sainte. Mm-hmm. Et il y a un ex-ingénieur chimiste qui s'occupe des enfants du camp, et il a monté un club de la presse. Et les gamins publient toutes les semaines une feuille avec les nouvelles du camp et avec des choses à faire, à pas faire, comment il faut se renseigner, tout ça. Un truc assez ludique. Et donc, on rentre dans cette tente et ils sont 10-12. Des gamins entre 7 et 11 ans, 12 ans, on est habitué à savoir comment c'est, quoi. Mm-hmm. Sauf que là, t'as affaire à des gamins qui se sont fait voler leur enfance, quoi, complètement enfance. Donc, une maturité, mais ça aussi, ça dépasse l'entendement, quoi. Mmh. Et il y a un petit gamin, Ali, qui se lève, qui est très beau, qui a des yeux gris comme ça, qui est vraiment magnifique, et qui raconte comment les Chabias ont tué son père et sa mère devant lui. Tout ça, le raconte dans un truc, mais voilà, c'est très mécanique, quoi. Et donc, à l'entente des uns des autres et tout, à un moment, je sors de la tente, j'ai dit, c'est quoi cette histoire C'est quoi ce boom?
Ouais.
Et donc, au fur et à mesure... très vite, je vais comprendre que je suis complètement à côté de la plaque et que en fait, il faut complètement repenser le projet, quoi. Et donc y aller à l'aveugle.
Ouais, c'est un film qui s'écrit au jour le jour.
Ouais.
C'est toujours ça qui est étonnant quand on fait des documentaires avant de tourner la moindre première image, on nous dit mais faut écrire ton film. Mais il y a des films qui peuvent pas s'écrire.
Oui, en fait tu peux mettre des intentions tout ça et puis après t'es confronté à des choses. Ouais. Et puis il y a ce qui se passe parce que t'es quand même au moment où on est au Liban, ça fait un an et demi qu'il y a plus de gouvernement. C'est quand même un pays où il y a des barrages partout.
Ouais.
Les gens sont armés avec des chars dans la rue.
Ouais.
Le soir, il y a des fusillades. On a eu une fusillade quand j'ai eu le privilège de rentrer dans le camp de Bourg el-Bajni, un camp palestinien, qui est dans la banlieue sud, donc dans le fief du Hezbollah. Et on était en pleine interview avec une petite, il y a une fusillade, quoi. Mm-hmm. Et c'est des trucs pareils. On allait à Saïda dans un immeuble qui était complètement en dehors de tous les repères. Là, il y avait 200 familles sans soutien, sans rien, quoi, qui vivaient là-dedans. Et le soir, il y avait des mecs de Daesh qui venaient avec les services spéciaux libanais qui faisaient dégager les gens. Tout. Enfin, c'est
une vie d'aventurier, là, quand même.
Non, mais c'est chaudard. Il y a ce genre d'événements, ça draine toutes sortes de choses, des choses absolument magnifiques. Par exemple, l'attitude des femmes partout. T'aperçois qu'en fait, c'est les seules qui tiennent debout. Les mecs sont par terre, ils sont morts. Et c'est elles qui tiennent tout, quoi. Avec beaucoup de dignité. Tu t'aperçois qu'en fait, t'as affaire à des gens qui sont comme toi, comme tes parents, comme tes voisins, qui ont envie de vivre tranquillement, que leur enfant est à l'école, qu'ils aient un toit sur la tête et qu'ils mangent à leur faim. Ouais. Ils n'ont pas d'autres envies que ça, quoi. C'est que les mêmes que les nôtres, c'est pareil
ça.
Que nous, quoi.
C'est ça. On fait une petite pause, on écoute à nos aînés.
Le prêcheur prêche, il attend à m'arracheter. La liste est longue, à la sortie, il faut payer. Payer sa dette à la vie, à la société. Et faire la quête afin de pouvoir subsister. Chacun se perd, se cherche, s'égare sur le côté. Touche le fond en espérant remonter. Et retrouver sa forme, sa conformité. Si on t'apprend à être toi, c'est pour mieux te plier. Vivre ensemble, quel que soit le temps, quelle que soit la forme. Ensemble, quel que soit le temps, quelle que soit la forme. Je suis d'un monde où l'on a osé, osé, où les différences n'étaient pas exacerbées, où le vivre ensemble était la règle des malmenés. La misère se partage, c'est une solidarité. Vivre ensemble, quel que soit le temps, quelle que soit la forme. Vivre ensemble, quel que soit le temps, quelle que soit la forme. Pour gouverner, des pas de rue, des pas d'idées de liberté, chèrement acquise, chèrement conquise par nos aînés, qui dans leur tombe n'ont de cesse de se retourner. Vivre ensemble, quel que soit le temps, quelle que soit la forme. Vivre ensemble, quel que soit le temps, quelle que soit la forme.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
À nos aînés, extrait du dernier album solo de Bernie Bonvoisin, Amo et Audi. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Avant d'écouter cette très jolie chanson, on évoquait ton documentaire « Paroles d'enfants syriens, la misère entre deux jardins » qui date de 2016. Et la réflexion que j'ai eue en regardant ce film que j'avais oublié, que j'avais vu à l'époque, que j'avais oublié, je me suis dit, mais ce film, il a été tourné, j'ai l'impression, la semaine dernière. J'ai l'impression que les réfugiés aujourd'hui sont effectivement les mêmes qu'il y a 10 ans.
Oui, oui. C'est un running gag.
Bah oui. On n'est pas obligé de dater ton premier documentaire, il marche à tous les coups, en fait.
Oui, oui, c'est parce que ces situations, on les retrouve partout. Et en plus, c'est assez déterminant, je trouve, dans la mesure où, pour moi, le conflit syrien est vraiment le premier conflit où on a commencé à se dénisiber de toute empathie en ce qui concerne la souffrance des autres et tout ça, et où c'est devenu un truc... on s'en tapait complètement de ce qui se passait en Syrie.
Ouais. Christina, Tu m'as dit que tu as vu deux fois le documentaire. Deux fois. Donc,
la première fois, je suis tombée par hasard.
Oui.
J'ai été forcément bouleversée, bon, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le lien à l'enfance, ça ne peut que nous toucher. D'autant que moi, je suis engagée à Marseille auprès d'une association qui s'appelle Ramina et qui s'occupe d'accueil de mineurs migrants. Et j'ai eu comme ça deux petits à la maison pendant 8 mois. Et dont un qui en plus a déclenché une leucémie et dont je m'occupe encore aujourd'hui, depuis 2 ans et demi donc. Mmh. Et donc, bon, voilà, l'accueil d'étrangers et d'autant plus de petits, ça ne pouvait que me bouleverser. Et il y avait la phrase de cette petite vers la fin qui dit « Mes parents m'ont donné un prénom ».
Shaima.
Et elle dit j'ai un prénom, mon prénom n'est pas réfugié.
Ouais, ouais,
et après elle dit je ne suis pas non plus un numéro, je vous le laisse.
Pas
un
nom, ouais.
Voilà,
ouais.
Elle dit je vous le laisse.
Elle a écrit une lettre fabuleuse.
Elle a écrit un texte, une espèce de poésie
bouleversante à l'ONU. Ouais.
Qui termine vous, les Nations Unies, qu'avez-vous fait de mon enfance. Elle a 12 ans.
Je ne sais même pas si elle a 12 ans, parce qu'elle dit j'ai même pas 10 ans dans le. Et donc du coup, voilà, il y avait ça. Puis après, il y a le fait aussi qu'à titre personnel, j'ai passé un mois à Gaza. Bon, pas en ce moment, il y a quelques années, et que je suis très sensible à la souffrance humaine d'où qu'elle vienne. Et quand il y a une terrible injustice, comme c'est le cas actuellement, avec des amalgames, des confusions, une grande difficulté de pouvoir parler de certains sujets entre l'indifférence et la stigmatisation. Mmh. Voilà, donc forcément, ce documentaire m'avait vraiment touchée quand je l'ai vu par hasard. Et puis, quand tu m'envoyais le lien, je l'ai re-regardé avec émotion.
Ouais, ouais. Est-ce que 10 ans plus tard, est-ce que tu es toujours resté, enfin, est-ce que tu es resté en contact avec les protagonistes du film? Est-ce que Shaima, tu es toujours en contact avec elle?
Non, j'ai plus de nouvelles. Je sais pas si. Je pense que Shaima, enfin, le but des parents, c'était de retourner à Alep. Ils étaient d'Alep, eux. Je sais que la petite Souad, elle a rejoint son père en Allemagne. Ça s'est fait. La seule personne avec qui j'ai toujours un contact, enfin les deux personnes, c'est avec Janine et avec Maria. Maria, c'est... Moi, je suis très réservé sur ces trucs-là. C'est une sainte, tout ça. Mm-hmm. Ouais, d'accord, ok. Mm-hmm. Et franchement, j'ai vu des choses avec cette femme incroyables.
Ouais, ouais. Est-ce que les conditions actuelles, justement, ce qui se passe dans la même région, au Liban, encore aujourd'hui, te donnent envie de faire un nouveau film, de retourner là-bas pour témoigner une nouvelle fois?
Oui, moi, franchement, j'adorerais aller à Gaza. Enfin, mm-hmm. j'adorerais. Oui, j'aimerais aller à Gaza. Ouais. Mm-hmm, mm-hmm. Mais c'est très compliqué.
J'imagine.
À part les gens d'Al Jazeera.
Oui, d'ailleurs, aller à Gaza aujourd'hui, c'est pour les journalistes, c'est très dangereux. Parce que...
Oui, il faut le dire, quoi, parce que c'est important. Ouais, il y a eu 210 journalistes palestiniens qui ont été tués.
Ouais.
Il y en a 52 qui sont emprisonnés.
Mm.
Et on comprend, quand on voit ce qui se passe, qu'ils n'ont pas envie que ça se sache, quoi.
J'ai lu un article dans Le Monde qui évoquait ça. J'ai entendu dans Quotidien aussi commencer à en parler. Donc, on peut pas faire autrement aujourd'hui.
Au bout d'un moment et demi, c'est bien de commencer à en parler.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais moi, je suis sidéré du manque de solidarité en général de cette profession journaliste vis-à-vis de ces gens qui sont tombés là-bas, quoi.
D'habitude, il n'en manque pas de solidarité.
Oui, enfin, je trouve ça dingue, quoi, qu'il n'y ait pas... je sais pas, un truc où on parlait.
Ouais.
C'est incroyable.
Une chose qui m'a touché aussi, qui m'a interpellé en regardant, pour le coup, le deuxième documentaire, c'est la liberté de ton que les producteurs te laissent sur les commentaires que tu peux apporter à tes documentaires. Parce que d'habitude, on a toujours des textes qui sont plutôt polissés. On est un peu dans une espèce de violence verbale, dans du trust.
Je pense que c'est essentiel de faire les choses sans filtre. Et moi, c'est une des conditions essentielles. Mais dans tout ce que j'entreprends, que c'était des films que j'ai fait pour le cinéma ou autre chose, j'aime bien avoir...
La liberté.
Ouais, ma liberté. Voilà.
Ouais.
C'est, Ça, c'est essentiel. Et donc, Luc Herrmann, je déroge tout le temps avec Luc, les premiers trucs. Ouais. Et lui, il est toujours, mais jamais en tant que journaliste, on oserait poser ce genre de questions.
Ouais. Toi, tu oses poser des questions. Des questions que les autres ne posent pas, mais les commentes aussi avec ta verve.
Je pars du principe qu'à partir du moment où c'est beau, c'est important de le dire, mais si c'est sale, donc si c'est beau, il faut le dire avec
des jolis mots.
Ouais. Et si c'est sale, il faut le dire avec des mots qui sont sales.
Au moins, c'est clair.
Mais je pense aussi, c'est ce qui a... En tout cas, moi, les retours que j'ai eus, là-dessus, les gens ont trouvé ça plutôt intéressant, quoi.
Tu me confirmes donc que sur un travail comme celui-ci avec tes producteurs, il y a zéro censure, que ce soit en image ou en texte.
Rien.
On te laisse. C'est vraiment la liberté totale.
Ouais, total.
Alors, il faut quand même rappeler que ces documentaires sont passés sur la
France
télé
2,
publique,
France 2 et LCP.
Donc, c'est pas du documentaire qui est passé sur une chaîne privée avec des capitaux.
Oui, ça a été un peu chaud. Ça a été un peu chaud après sur LCP. Parce que
Sur LCP, c'est Mort Sociale Jeunesse de France.
Ouais, parce que
sur la vie des étudiants.
Très courageusement, Guylaine Chenu, avant de partir, s'occupait des programmes, et donc c'est avec elle qu'on a signé. Ensuite, entre temps, il y a un mec qui a été un proche de Macron qui a été mis en place. Et quand il a découvert le truc, le mec il a crisé, quoi. c'est après, moi je suis pas étonné tant que ça. Si ces gens-là, si on pouvait les qualifier par leur courage, ça se saurait, quoi. Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui aient le courage de ces choses-là et de justement qu'on puisse avoir la possibilité de faire les choses à notre main, quoi. Ouais. Tout en étant, avec Luc Herrmann, c'est parce que c'est beaucoup avec lui que je travaille. Mm-hmm. C'est un dieu, quoi. Mm-hmm. J'écoute ce qu'il me dit, c'est toujours judicieux, c'est toujours.
C'est un joli partenariat. Belle équipe,
Duo. Non, puis j'ai beaucoup de chance.
On écoute pour se reposer un petit peu, à s'en ouvrir les veines.
Ai-je le temps de dire que me manquent vos rires, vos colères bienveillantes, vos rêves restés désirs de vous penser? Quand tout autour abonde, m'oppresse, et les printemps reviennent sur la peau de nos peines. Quand on s'aime d'amour, à s'en ouvrir les veines. C'est le tout. Le Seine, l'avoue, de vous sentir. Je n'ai de cesse. Quand la nuit ou le jour, le sol s'affaisse et les printemps reviennent sur la peau de nos peines. S'aime d'amour à s'en ouvrir les veines, et les printemps reviennent sur la peau de nos peines. Quand on s'aime d'amour à s'en ouvrir les veines.
comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
En ouvrir les veines. Un deuxième extrait du dernier album de Bernie Bonvoisin, Amo et Audi, un album qui est sorti en 2023. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, il est 15h30. Christina Rosmini est avec nous et Bernie Bonvoisin est toujours là, il n'est pas encore parti, caméra à l'épaule pour traiter d'un nouveau sujet. Une fois que tu as eu réalisé ce premier documentaire, tu as eu la fièvre du documentaire, tu as eu envie rapidement
non, pas,
de
non,
faire
pas,
un autre.
Pas la fièvre, mais j'aime bien l'idée d'être en dehors des choses.
Ouais.
Et de justement, de ce qui est génial avec le documentaire, c'est que moi, c'est une manière de, entre guillemets, de me servir de ma petite notoriété pour mettre la lumière sur des gens qui ne l'ont pas ou des problématiques sur lesquelles ça y est pas. Mm-hmm. Voilà, je pense que quand on fait ce que je fais, c'est important de mettre ces choses-là au service des autres. Et en tout cas, voilà, c'est une manière de renvoyer.
Donc, 5 ans plus tard, tu reprends la caméra, tu retrouves Luc Herrmann, tu retrouves ta première ligne, ton équipe de première ligne, et là, tu pars dans l'est de la France, du côté de Nancy, pour filmer le quotidien des étudiants de la fac de Nancy.
Ouais.
Et là, c'est pareil. C'est pareil.
C'est bon, je fais pas des trucs très glamour.
Oui.
Mais non, mais voilà. C'est...
Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être.
Ouais, c'est... Mais non. Oui, c'est le. En plus, c'était juste après l'épidémie de Covid.
Oui.
Et donc, on arrive. Pareil, quoi. On arrive dans un truc. Alors, c'est pas le Liban, mais.
Oui, c'est ça. Enfin, relativisons tout de même.
C'est à côté, quoi.
Oui.
On voit des jeunes. C'est assez curieux parce que je pars avec une espèce d'a priori, et d'ailleurs je le dis dans le film, c'est important de dire aussi ces choses-là. Je me dis, bon, c'est quand même une jeunesse qui à la base est un peu désinvolte et s'en tape un peu de tout ce qui se passe. Et en fait, je m'aperçois que pas du tout, quoi.
Oui.
Donc c'est important de dire qu'on s'est trompé et qu'on avait un...
Que la jeunesse a une conscience.
Ouais, en tout cas, moi, ce que j'ai rencontré, j'ai trouvé des gens vraiment solides et bienveillants et au fait et au su des choses, quoi.
Ouais.
Donc, c'est plutôt rassurant. Après, je sais pas comment ils évolueront dans la vie ou dans les choses.
Ouais, mais t'as été heurté par la précarité, on dit précarité, mais toi tu préfères même dire pauvreté.
Oui, non, ça s'appelle de la pauvreté. Quand t'as 7 euros pour vivre par mois, t'appelles ça comment?
Oui.
Ok, la précarité.
Ouais.
Non, mais franchement.
La novlangue.
T'es pauvre. Il ouais. y a un couple que j'ai rencontré que j'ai pas monté dans le film, parce qu'à un moment je me suis aperçu que c'était un peu décentré du sujet, quoi. Mais j'ai rencontré un couple qui à partir du 8-10 du mois font un repas par jour à 4.
Ah oui.
Le père, la mère, les deux enfants.
D'accord. Oui. Ça nous laisse sans voix là.
Ah ouais, là c'est...
Et ce couple-là, ça fait partie des jeunes qui sont étudiants aussi à la fac que tu as rencontré, ou c'est...
Non, mais justement, eux, je les ai rencontrés parce qu'au départ, j'ai passé une annonce, en fait. Et donc, il y a des jeunes qui sont venus.
D'accord.
Et donc, je parlais avec eux, je filmais. Et puis, j'en ai retenu quelques-uns, parce que tu peux pas...
Mais tu peux pas filmer tout le monde.
Mais il y a ce couple qui est venu, quoi. Ce mec qui est venu, qui était assis devant moi. J'avais une panière avec des madeleines et des petits croissants.
Ouais.
Mais toi, tu sais pas, ça. Tu vois ce que je
veux dire? Ouais.
Et le mec, en fait... Il était jaune. Et en fait, je lui parlais, mais en fait, il était scotché sur la panière, quoi.
Ouais.
Mais moi, je savais pas ça. Tu vois, tu sais pas.
Tu peux
ça.
Pas te douter qu'il y a un tel désespoir.
Il y a qu'après quand tu. Et puis alors, c'est incroyable parce que généralement ces gens, en plus, il y a des histoires autour. Tu te dis, mais putain, c'est des chats noirs, quoi.
Ouais.
Elle est tombée. Elle est tombée malade, elle a chopé une espèce de maladie où elle a les mains gonflées, mais quand je dis comme ouais, ça, ouais. Un truc de violette, quoi. Enfin, c'est des trucs de cinglés, quoi.
Ouais, ouais.
Et bon, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une déambulation dans un supermarché avec eux, et je leur ai payé la bouffe qu'ils ont pris.
Ouais.
Mais en fait, donc, ils achetaient que des. Ils ont acheté, je sais pas combien de bouteilles de les boissons énergétiques là.
Red Bull ou...
Red Bull.
Ouais.
Je dis mais pourquoi t'achètes ça? Ben dis ça, ça coupe la faim. T'es charmé comme.
Ok. Ouais.
Tu vois?
Pour en revenir aux étudiants, voilà. Pour en revenir aux étudiants que tu as filmés qui vivent pas dans des conditions meilleures que ce couple-là, enfin même pas au-delà des étudiants. À un moment, tu rencontres la vice-présidente de la faculté,
ouais,
ça. Et cette femme,
elle, je la contacte et elle a une attachée en communication,
ouais.
Parce que c'est une femme importante. Et donc la femme dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des questions?
Ouais.
Et je lui dis, mais on n'est plus sous Staline. c'est fini, ça.
Ouais.
J'ai des questions. Je dis, mais de toute façon, j'ai deux questions à lui poser à sa femme. J'en ai pas 50, je veux pas avoir une question. J'ai deux questions. Vraiment, je vous jure, deux questions à lui poser. Elle dit, mais donnez. Je lui dis, non, je fais pas ça,
ouais.
Quoi.
Ouais. Donc tu la rencontres quand même.
Et donc je la rencontre quand même, parce que quand même, il y a un moment, il y a une caméra, quoi.
Ouais.
Donc c'est bien d'être devant une caméra.
Ouais.
Hein? Et puis, mais sauf que moi, ça fait 3 semaines que je suis là. Et donc j'ai vu tout ce que j'ai vu. Et donc j'ai cette femme qui essaye de me vendre un truc.
Oui. Surréaliste un peu.
Ouais, enfin voilà quoi. C'est-à-dire la parole d'en haut.
Pour elle, tout va très bien, madame.
Oui, on leur a donné des ordinateurs. Je dis, mais moi je prends des ordinateurs. pourquoi vous empêchez les ONG locales, et ça c'est systémique, ça je l'ai vu au Liban, les locaux sont toujours les plus efficaces, les marques, ils sont là pour se faire de l'oseille et rien faire. Moi j'ai filmé des enfants esclaves de 7 ans avec des hernies qui sortent du bide comme ça le matin à 6h du matin, partir faire des esclaves, ramasser des pommes de terre pour 2€ par jour, dans un camp protégé par l'UNICEF. D'accord, et ça je l'ai filmé, donc ils m'ont fait un sac, ils m'ont dit enfin comment, vous nous en voulez? J'ai dit non, moi je vous en veux pas. Si vous faites votre travail, je vais dire putain, les mecs d'UNICEF ils sont forts, c'est génial. Je sais pas, ça fait un mois que je suis là, je le sais ça, donc je le filme. Vous, ça fait 5 ans que vous êtes là, vous n'êtes pas au courant que les gamins ils travaillent comme ça, comme esclaves, vous le savez pas, vous. Mais vous faites quoi comme travail? Donc voilà.
Et t'as la même.
Donc j'ai le même truc là, quoi. C'est-à-dire que ils sont déconnectés. Et donc il y a des ONG locales qui, dès qu'il y a eu le début de l'épidémie, ils ont eu la réaction de penser de faire des paniers, des trucs pour ceux qui étaient le plus dans la merde, et de filer les trucs, quoi. Et ben ils sont venus leur casser les couilles pour les empêcher de travailler, quoi, parce que c'était pas légal de donner des trucs comme ça gratuitement et tout. Enfin c'est dingue, quoi.
Situation
assez... Alors qu'ils faisaient pas d'oseille avec, hein. Ils leur filaient des trucs juste pour les aider, éviter qu'ils soient dans la merde, et de voilà quoi. Et maintenant, il a fallu qu'ils viennent parce qu'ils avaient l'autorité de dire non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut faire ça avec la loi. Machin, tiens, ça déconne.
Confiné in fine.
Confiné in fine.
Et oui, comme le temps passe. Eh bien, dépêchez-vous de rester jeune.
Je confirme, je confine, in fine que les cons confinés là, ça fait comme une icône. En finesse le gravier et payons pour nos fesses. Certains prient, d'autres prêchent, être ou ne pas être, être libre sans l'être. Debout ou résigné, ramper, ne pas ramper, prévoir. savoir improviser. Tenté par tous les diables, les dieux de la sagesse, les démons véritables. Des mains gantées de braise peignent des postures frauduleuses. Nos oracles, nos émois, nos jardins, nos enfers prient les anges de venir sur terre.
Dépêchez-vous de rester jeune.
Confiné in fine, un nouvel extrait du dernier album de Bernie Bonvoisin. Et je dois te dire, Bernie, que notre réalisateur, le Capitaine Nifle, dans l'aquarium, a adoré le jeu de guitare sur ce morceau. Et la réale est très très belle. Qui joue la guitare sur ce titre?
C'est Jean-Pierre Bucolo. Ah, il joue sur un dobro de 1923.
Ouais, wow. ça s'entend. Ça sonne très très bien. Ouais. Bravo en tout cas. Christina Rosmini est toujours là également avec nous. On va parler de ton spectacle dans quelques instants, Inti. Encore un petit détour par le documentaire sur le dernier que tu as réalisé, qui s'appelle tout simplement « Bête à bénéfice », qui se situe dans la France qu'on appelle rurale ou profonde,
ouais,
la diagonale du vide, à Guéret.
C'est la souterraine.
C'est l'impact qu'ont les licenciements sur la fermeture d'une entreprise
sur les femmes et les compagnes et les épouses des gens licenciés. Ouais.
Oui, mais aussi sur les licenciés eux-mêmes, avec tout ce qu'ils peuvent subir.
Oui, mais c'est
subir.
Surtout sur leurs femmes.
Oui.
Moi, c'est ça qui m'intéressait, en fait. Parce que les gens qui rentrent en grève et tout, bon, on sait comment ça se passe, il y a plein de trucs qui ont été faits là-dessus.
Ouais.
Mais les compagnes de ces mecs-là, on n'en a jamais parlé. Et moi, j'ai fréquenté un peu ces gens-là, puisqu'on était fait un concert de soutien à la souterraine quand GMS s'est mis en grève en 2017, juste avant les élections. On a fait un concert de soutien pour ramasser de l'argent pour la caisse de la CGT, mm-hmm. enfin pour les ouvriers. Et il y a des gens avec qui je suis resté en contact. Et un an après, on est revenu faire un concert dans le coin. Et il y a trois couples de cette époque-là qui sont venus nous voir. Et quand je les ai vus rentrer, waouh, c'est pris une tarte dans la gueule, quoi. Mm-hmm. Comment ces gens étaient impactés, et surtout les femmes, j'ai trouvé.
Oui.
Et donc là m'est venue l'idée, je me suis dit, mais on parle toujours des mecs qui sont licenciés, et c'est très bien, mais on parle jamais de ces femmes. Et en fait, ces femmes-là, elles sont impactées au moins autant que leur compagnon ou leur mari, quoi.
Oui, parce qu'on voit des situations terribles d'hommes qui sont licenciés, qui tombent dans l'alcool, dans la maladie, qui décèdent très rapidement après, et on trouve des femmes qui sont complètement perdues, en surcharge de travail, une charge mentale énorme.
Là aussi, le lien, moi, ça m'a fait penser aussi à ce lien, ce que j'ai vu chez ces femmes syriennes dans les camps, ces femmes là que j'ai vu à la souterraine, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu des femmes dignes, des femmes solides, des femmes c'est à la fois magnifique et en même temps c'est terrifiant, quoi. C'est la première qui témoigne, je l'ai eu récemment au téléphone, son compagnon est décédé et elle a perdu son travail là, en l'espace de 6 mois. Et c'est tous des gens qui ont des boulots de merde, hein. Plus c'est les femmes qui sont assistantes dans les EHPAD.
Aides-soignantes.
Voilà, quoi, de misère, quoi.
Ouais. C'est double peine pour eux.
Vraiment. C'est assez effarant, quoi. Et que, encore une fois, en fait, que ce soit les étudiants, que ce soit ces femmes-là, à chaque fois, ça me ramène à la même gamberge, même tout. Mais en fait, putain, ce pays, quoi. Je vis dans un pays qui a la ramasse, quoi.
Ouais. Tu te demandes l'état social, ce qu'il devient, ce qu'il fait.
En France, il y a des gens qui vivent avec 7 euros par mois. Mais c'est quoi ce pays, quoi. Il y a des gens qui font la queue pour manger.
Donc le titre, en fait, Bête à bénéfice, c'est...
Je le dois à Céline.
D'accord.
Voilà.
Tout simplement.
C'est une phrase dans le voyage au bout de la nuit.
Ouais.
Dans la période où les États-Unis. J'ai trouvé cette phrase monstrueuse.
Ouais, parce que tu considères que, en fait, tous ces licenciements...
Ils sont des bêtes à bénéfice.
C'est ça, c'est pour faire gagner de l'argent aux actionnaires.
Mais enfin.
Ouais.
C'est des gens qui ont été, ils se sont fait marcher dessus pendant 40 piges, quoi. C'est rien d'autre.
Ouais. Et c'est ce qu'on voit en France depuis des années.
Les mecs licenciés par SMS, hein.
Oui. L'humanité dans toute sa splendeur.
Licenciés par SMS. Après, 25 piges ou 30 piges de maison, hein. Des trucs où le mec, t'as quand même envie de l'attraper, de lui couper la tête. Non, mais sérieux.
Est-ce que Christina, toi, c'est des combats également qui te touchent, ça, la précarité des étudiants, les licenciements économiques pour le bénéfice des actionnaires?
Je serais tentée de te dire, voilà, je viens d'un terreau très politisé, je le suis moi-même.
Ouais.
Mais je crois que, bon, en dehors du fait qu'à Marseille, tu connais un petit peu mon histoire, toute la famille Rosmini est très très engagée.
Ouais,
je pense que moi, j'ai vraiment choisi vu ma sensibilité, vu le fait que, tu vois, depuis tout à l'heure, j'écoute Bernier parler. En fait, j'ai envie que de pleurer. et non, mais vraiment. Et en fait, si tu veux, je peux pas vivre comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis tellement sensible et tellement en empathie depuis toute petite avec le genre humain, que si je vais trop loin là, moi, je me perds et je suis plus utile au monde.
D'accord.
Suis plus utile à personne.
Ouais.
Donc, personnellement, j'ai pris un contre-pied qui est celui de, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mon album, c'est Inti, c'est le dieu du soleil.
Ouais.
Et je remets du soleil, mais du soleil engagé.
Oui,
du soleil qui ne parle que de ce qui touche mon âme.
Ouais.
Mais je peux pas aller, tu veux, je chante pour les enfants, je prends des migrants à la maison, enfin, je me retrousse les manches aussi. Mais voilà, et mon engagement est social, et politique, et historique, puisque je viens aussi d'une famille d'immigrés.
Immigré
je suis
espagnol.
Immigré espagnol, italien. Mes quatre grands-parents sont arrivés la valise à la main. C'est des gens qui ont souffert énormément, avec des histoires d'exil politique, mais surtout d'exil économique, hein, faut bien le dire, avec la misère ou la guerre civile espagnole, enfin bon, des guerres, mais beaucoup la faim, poussée par la faim. Si. Voilà, donc moi, si tu veux, je suis la troisième génération d'immigration, je suis dépositaire de toute une histoire de migration, de toute une histoire d'engagement, mais... Je fais ma salade et j'en ressors quelque chose de solaire. Ouais. Parce qu'il n'y a que comme ça que j'ai ma place dans ce monde et que je me sens un tout petit peu utile à vivre et à rêver, et utile à vivre et à chanter.
Comme disait Rodagil. Exactement. Vous avez un point commun, tous les deux, Bernie et Christina, c'est que vous avez un engagement particulier auprès de l'association SOS
Méditerranée.
SOS Méditerranée.
On a joué pour eux.
Voilà, je sais que vous avez fait un concert pour SOS Méditerranée. Et puis,
moi, j'ai écrit une chanson pour eux.
Tu as écrit une chanson.
Voilà.
On écoutera d'ailleurs. D'accord. Tout à l'heure, un titre avec, je ne vais pas dire un duo, mais avec la participation de Relema.
De Relema, voilà, le grand pianiste d'origine congolaise.
Sous nos pieds, je crois. C'est
tout à fait.
Voilà, on va écouter cette chanson tout à l'heure. Donc, c'est des combats communs que vous avez, Christina et toi, par rapport à cette tragédie méditerranéenne.
C'est pas que ce soit méditerranéenne ou ailleurs.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, c'est une hérésie de penser qu'il y a des gens qui ont envie de vivre ce qu'ils vivent, quoi. Et puis, on peut comprendre. Moi, je disais toujours, enfin, quand j'ai rencontré ces femmes, pareil, au Liban, qui venaient d'Alep, quand vous avez un mec qui vous jette des barils de TNT avec 100 kilos de TNT sur la tête par hélicoptère, il y a peut-être un moment où on peut comprendre que ces gens ont envie de partir de chez eux, quoi. C'est pas une nécessité pour eux. Ils en ont rien à foutre d'habiter à Stuttgart ou à Marseille ou à Paris ou ailleurs.
Mais ce qu'ils disent dans ton documentaire, c'est ce qu'ils disent. Ils disent on a tous envie de retourner chez nous.
Ils s'en tapent d'habiter en Europe. Ils sont comme nous, ils préfèrent habiter chez eux. Quoi.
On voit cet enfant dans le premier documentaire qui regarde au loin, et puis ça doit être au-delà de la frontière, j'imagine, qui dit j'imagine mon
village. Lui est génial. Il est génial.
J'imagine mon village, les arbres.
Lui, il a une phrase, il m'a tué. Je lui dis, qu'est-ce que tu feras la première chose quand tu vas rentrer à Idlib, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, on va faire un grand barbecue et on va inviter tous les pauvres.
Il a dit ça.
Pourquoi
les pauvres? Il dit parce que les pauvres, c'est pas sale. Être pauvre, c'est pas sale.
C'est bouleversant, ça. Dans ce documentaire, il y a aussi une séquence qui est prodigieuse aussi. Je crois que c'est Shaima, toujours, qui inverse les rôles et qui fait l'interview de toi. Je trouve que c'est extraordinaire de voir pour une fois quelqu'un qui est interviewé qui dit attends, on va inverser les rôles. Et du haut de ses 12 ans, elle te pose des questions.
Shaima, c'est une
warrior, elle.
C'est
fou, quoi. Elle te pose des questions sur ce que tu vois par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer.
C'est tellement anormal à cet âge-là de parler comme ça, quoi. Seulement, on trouve ça fabuleux, mais en fait, quand on parlait avec les pédopsychiatres, parce que heureusement, il y a un encadrement qui est là. Et voilà, quoi, les gens, ils vous expliquent ça à chaque fois, ils vous disent, c'est pas normal. Alors, c'est vrai, on peut se trouver ça absolument incroyable et fabuleux et tout, mais rien de fabuleux, quoi. C'est pas normal à cet âge-là d'être dans des trucs comme ça, dans des considérations comme ça.
On va marquer une nouvelle pause musicale, cette fois-ci, on va prendre un extrait du dernier album de Trust, Tout ce qui nous sépare.
Ce qui nous sépare, être en avance, être en retard, les fuites, les désespoirs, c'est tout ce qui nous sépare. Les cris quand la douleur monte, le sang, le ciel, la peur, la honte, nous sommes faits de lourds silences, de zones d'ombre, d'errance, c'est tout ce qui nous sépare. La crainte des autres, la peur du noir, l'amour est juste un accessoire de nos lâchetés, de présentoirs. On peut changer ce que l'on affronte, rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte. Le sang, le ciel, la peur, la honte.
est-ce tout ce qui nous sépare? Jamais blanc, jamais noir, c'est merveilleux ou c'est immonde. On se scrute, on se sonde, c'est tout ce qui nous sépare. C'est tout ce qui nous sépare, la crainte des autres, la peur des noirs. L'amour est juste un accessoire. Ce qui nous sépare, être en avance, être en retard, les fuites et les désespoirs, c'est tout ce qui nous sépare. C'est tout ce qui nous sépare, la crainte des autres, la peur des noirs. L'amour est juste un accessoire de nous lâcher. C'est tout ce qui nous sépare, la crainte des autres, la peur du noir. L'amour est juste un accessoire de nous lâcher. Le présent soir. C'est tout ce qui nous sépare.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Ce qui nous sépare, un extrait du dernier album Propaganda de Trust qui est sorti en 2022.
Ouais.
Avec des morceaux qui rentrent bien dans les oreilles. Et voilà, ce titre-là, Tout ce qui nous sépare, je l'ai choisi parce que je voulais aussi qu'on rende un petit hommage à AC/DC. Je trouvais que la rythmique de cette chanson.
Oui, et puis un groupe, le premier groupe de Van Morrison, les Zem. La fin de ce morceau, c'est exactement la copie conforme de Gloria de Zem.
Oui, Gloria de Zem. Eh ben, Vincent Turban, notre spécialiste musical, hoche la tête et est tout à fait d'accord. Et je te passe la parole, Vincent. À toi, Ike et Tina Turner.
Oui, Ike et Tina Turner, mais surtout Tina Turner, parce que c'est quand même la patronne. C'est la patronne. Parce que j'ai regardé un truc, j'ai vu un concert de 1996 à Amsterdam. Et elle me laisse sans voix, Tina Turner. Elle me laisse sans voix.
Ouais. C'est une puissance.
C'est la patronne. C'est la patronne du rock. C'est la patronne, et je vais même dire, c'est la plus rock'n'roll des Soul Sisters.
Let's go.
Ike and Tina Turner. Tina Turner, un féroce tourbillon d'énergie au sex appeal impossible à contenir sur scène, poussant certains critiques à dire qu'elle incarne le véritable esprit du rock'n'roll. À son apogée, la revue Ike & Tina Turner Review se spécialisait dans un mélange de rock et de soul explosif que peu de spectacles rhythm and blues de toute époque pouvaient espérer égaler. Louée par les Rolling Stones et Janis Joplin, Tina était sans aucun doute la vedette du spectacle avec une voix extrêmement puissante et rappeuse. Cependant, les difficultés conjugales, bien connues du couple, une manière douce de décrire la cruauté violente et alimentée par la toxicomanie d'Ike, ont fini par dissoudre leur partenariat au milieu des années 70. Tina, bien sûr, est devenue une icône et un symbole de survie après la résurgence de sa carrière solo dans les années 80, mais ce sont les années qu'elle a passées avec Ike qui ont façonné sa légende. Lizard Los Ike Turner Jr. né à Clarksdale, Mississippi en 1931. D'abord pianiste, il forme son premier groupe au lycée et assemble les Kings of Rhythm à la fin des années 40. En 1951 sort Rocket 88, chanson souvent considérée comme le premier disque de rock'n'roll. Peu de temps après, Turner passe du piano à la guitare et avec son groupe, il devient prolifique à Memphis, soutenant divers artistes et bluesmen au début des années 50. Turner relocalise les Kings of River à East St. Louis au milieu des années 50, où ils deviennent les piliers du circuit rhythm and blues local. 1956, il rencontre Anna Mae Bullock, une chanteuse de Nashville, Tennessee, et lui promet de chanter avec son groupe. Une nuit, Bullock attrape le microphone et commence à chanter. Impressionné, Turner l'intègre à sa revue et change son prénom pour devenir Tina. Elle tombe enceinte du saxophoniste du groupe Raymond Hill, puis s'installe dans la maison de Turner, ce qui conduit au début d'une relation. Ils se marient en 1958. Fin 1959, le groupe de Turner entre en studio pour composer Full Enough pour le label Sue Record. Le chanteur ne se présente pas, Tina prend sa place. Sortie en 1960, la chanson se hisse au deuxième rang des classements Rhythm and Blues. Tina est désormais clairement la vedette. Ike Turner rebaptise la formation Ike and Tina Turner Review, enrichie d'une section cuivre et de choristes, les Ikeettes, qui finit par acquérir une réputation à produire des concerts les plus excitants qui soient. Les succès s'enchaînent au début des années 60, Ike fournit la musique, et bien qu'il soit à l'origine de plusieurs des premiers succès, il n'est pas un auteur-compositeur de renommée mondiale, capable de produire des hits avec régularité. Une grande partie du répertoire de la Review se composait de rhythm and blues bluesy, pas exceptionnellement mémorable. Ike and Tina quittent Sue Record pour d'autres labels. Bien qu'ayant plusieurs succès dans les charts, aucun n'atteint le niveau des débuts. En 1966, les Turner collaborent avec Phil Spector qui cherche un moyen de rétablir son statut artistique et commercial à la pointe de la musique pop. La voix de Tina fait appel au sens de la grandeur du producteur, désireux de concevoir une production à grande échelle. La pièce maîtresse de la collaboration Spector-Turner, River Deep Mountain High. Une symphonie musicale monumentale coûtant plus de 22 000 dollars à produire, une somme énorme pour un album, encore moins pour un single. Bien que certains critiques qualifient le titre de somptueux surproduit, beaucoup le considèrent toujours comme l'un des plus grands singles du rock. Ike et Tina reprennent leurs habitudes d'enregistrement mercenaires, composant pour divers labels, en 1969. En cette même année, ils se lancent sur la route avec les Stones. Ike réarrange le son de la Review pour plaire au public rock. En 1970, ils signent avec Liberty United Artists. Working Together devient l'album le plus populaire grâce à Proud Mary, emprunté à Creedence Clearwater Revival. Ike et Tina obtiennent leur premier succès dans le top 5. Pop et un Grammy Awards. Leur dernier grand succès, Nutbush City Limits en 1973, chanson semi-autobiographique écrite par Tina qui figure dans le top 10 rhythm and blues et manque de peu cette place côté pop. Malheureusement, la musique elle-même n'est pas le seul facteur du ralentissement d'Ike et Tina. En tant que leader, Ike a longtemps été discipliné, mais au cours des 60s, il développe une forte dépendance à l'alcool et à la cocaïne. Voulant à tout prix garder le contrôle, Turner fait subir à sa femme un régime de violence psychologique et physique de plus en plus insoutenable. Ses excès de rage, des coups, des brûlures qui poussent Tina à tenter de se suicider en 1968. Elle continue à subir la domination d'Ike jusqu'au milieu de la décennie. Elle s'enfuit en 1976 et divorce en 1978. Après une longue période de lutte et de doute, Tina revient triomphalement sur le devant de la scène dans les 80s avec plus de 180 millions d'albums vendus. La reine du rock'n'roll n'a jamais usurpé ce titre jusqu'à sa mort le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans.
Et oui, comme le temps passe.
She walks just like a cat. Hypnotic eyes and a stacked up love sack. She not only wants your love, she wants your life.
Sexy Aida.
Absolument, Sexy Aida, sorti en 1974.
Il y avait un bel échange là, hors antenne, entre Bernie et toi, sur Ike et Tina Turner. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Vincent, sur, je ne veux pas dire la traversée du désert, mais la fin de période Ike et Tina Turner jusqu'au retour de Tina Turner.
Ça a été très 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 dur pour Tina, ouais. Parce que imaginez quand même devoir passer son temps à se cacher, et vivre avec des bons alimentaires quand même, hein, parce que elle en était réduite à ça quand même.
Ah ouais.
Ouais, ça a été vraiment une période de doute. Uh-huh. Et finalement, je crois que c'est une belle manière de le dire, le phénix
renaît de ses cendres.
Effectivement.
Elle a eu une très très belle fin de carrière.
Ah, franchement, et c'est dingue parce que autant Tina a eu du succès dans les années 80 et ça a vraiment bien duré, autant Ike.
Oui, disparu des radars.
Il a complètement disparu des radars. Hormis une intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame.
Malgré tout.
Mais mérité, je suis absolument de ton avis, Bernie, parce que quand même.
Non, parce c'était pas sympathique. Hein.
Oui.
Enfin, ce qui est important de rappeler, c'est que ce qu'elle a été après, ce qu'elle était, c'est lui qui l'a faite.
On est absolument.
C'est lui et personne d'autre.
Absolument.
C'est pas elle,
non.
C'est lui. Qui en a fait ce qu'elle est devenue. Quoi.
Bien sûr.
Son Pygmalion.
Ah ouais,
bien sûr.
Ça, ça te parle, Tina Turner, Christina?
Entièrement d'accord.
Forcément.
Ah, forcément.
Bah oui, forcément.
Ouais. Mais c'est souvent, on le met à part en disant, ouais, c'est un salon.
Musicalement, non. Effectivement. Mais le personnage.
Musicalement et tout, c'est lui qui l'a.
Absolument. Et puis lui, c'est un formidable musicien. Faut quand même pas oublier que c'est un des pionniers du rock'n'roll.
Ok.
Oui. Et bien dépêchez-vous de rester jeune.
Elle est le soleil, pas celui du dehors, pas celui qui éblouit et qui empêche de voir, pas celui qui brûle la peau non plus. Christina Rosmini est un soleil qui vous illumine de l'intérieur. Elle entre dans la lumière, chante et toute la vie prend son sens. C'est l'humanité tout entière qui est contenue dans ses chansons. Christina transmet avec ses mots la douleur et la souffrance des autres. Cette compassion est toujours accompagnée d'un large sourire d'espoir.
Oh, c'est joli.
C'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu es très engagée, tu es très présente, tu combats, tu es une combattante, mais pourtant, il y a toujours l'espoir chez toi, il y a toujours le sourire, je trouve.
Oh, combien ?
Ben oui.
C'est-à-dire, moi, je fais partie de ceux qui pensent que malgré l'horreur qu'on peut constater chez nos congénères, l'humanité avance. C'est-à-dire, je pense très sincèrement que c'est lent, c'est long, on aimerait que ça aille plus vite, mais il y a des problématiques qui sont en train d'arriver petit à petit à la surface, si tu veux, au niveau du droit des enfants, au niveau des droits des femmes, au niveau des violences conjugales, au niveau des féminicides. Enfin, il y a énormément de choses qui bougent, mais je pense qu'on vient de très loin et très lentement. Et puis qu'il y a des ressacs. Voilà. Mm-hmm. Et je pense qu'on est actuellement dans une période de reflux, comme d'accord. Ça, avec des peurs, avec une grosse désillusion aussi de la part d'énormément de gens qui n'ont plus confiance dans la politique telle qu'on nous la présente parce qu'ils se sont sentis beaucoup trahis et que ben, c'est beaucoup plus facile d'avoir des boucs émissaires, de stigmatiser les uns en pensant que c'est, je ne sais pas si vous avez vu là récemment, cette femme américaine qui a insulté un petit garçon noir dans un parc et qui est devenue une star là, de toute l'extrême droite américaine, simplement parce que voilà, elle s'est focalisée sur un petit garçon de 5 ans pour déverser toute sa haine et sa colère. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a les minorités, notamment aux États-Unis, se rendent compte que le fait d'avoir élu Trump, c'est un marché de dupes, parce qu'ils sont eux-mêmes, en réalité, les premières victimes de ce genre de régime. Donc, je pense qu'on est dans un moment compliqué où il y a effectivement un repli identitaire, où il y a l'extrême droite monte partout dans le monde, hein, parce qu'on pourrait fustiger nos propres politiques en disant, bon, c'est vrai qu'en France, on a la social-démocratie a souvent trahi, etc. Mais c'est partout. Mmh. Mais pourtant, pour autant, je pense que l'humanité avance. Mmh. Et je pense que ça va lentement. C'est une période où il faut être extrêmement vigilant. Mais il y a des bulles d'humanité partout. Et puis, je pense qu'aussi, alors ça, les médias, précisément, les reportages, enfin, tout est là pour réveiller les consciences. C'est-à-dire, il faut qu'on montre aux gens le beau. Il faut qu'on montre aux gens le bon. Il faut qu'on montre le vivre ensemble. Il faut qu'on montre la convivencia, comme on dit en Espagne.
Ouais.
Parce que c'est très important de montrer à quel point il y a partout des phénomènes de fraternisation et que c'est important, que ouais. c'est quand même la majorité de cette planète qui vit ensemble et qui veut pas tuer l'autre. Ouais. Mais voilà, nous, dans les quartiers nord de Marseille, on voit très bien à quel point Même dans les quartiers très sensibles, etc., les jeunes vivent ensemble. Le racisme, finalement, se heurte à la réalité des amitiés et du vivre ensemble, voilà, tout simplement.
Comme le disait Bernie tout à l'heure, c'est au niveau local qu'on peut faire des choses, et oui. Au niveau local, les gens s'entendent beaucoup mieux qu'au niveau strate supérieure, en fait.
Oui, enfin...
Dans votre rencontre aujourd'hui, c'est parce que vous avez tous les deux une même vision du monde, mais avec le yin et le yang, Christina, elle a un constat, Christina, elle a toujours l'espoir, le sourire, on va s'en sortir, et Bernie, j'ai l'impression que tu vois le monde plus noir.
Non, pas plus noir, j'aimerais que ça aille comme ça, que ce soit comme ça. Ce que je conseille, c'est qu'il y a ce que j'appelle une daïchisation de la société, c'est-à-dire toutes les idées, quelles qu'elles soient, l'écologie, le combat des femmes, c'est d'une radicalité de ouf, quoi.
Je trouve ça
dangereux. Ça, c'est dangereux.
Oui, mais tous les combats sont passés un jour par des excès, on le sait. C'est-à-dire que. Ça dépend ce qu'on appelle les excès. Par exemple, tu parles du droit des femmes. Moi, j'ai des nièces qui sont des jeunes filles très engagées, des jeunes femmes. Et je trouve que c'est très intéressant de les écouter parce que précisément, elles ont un discours qui est.
Je m'excuse, j'interviens. Moi, je pense, dans tous ces sujets-là, ce qui est important, c'est la mesure et d'écouter l'autre aussi. C'est le problème, c'est quand ça devient une espèce de diktat. C'est-à-dire que quand j'entends des féministes dire, on dénonce un mec, il a rien fait, mais de toute façon, ça fait avancer la cause.
Toujours la présomption d'innocence.
Culpabilité. Et ça, je trouve ça dangereux.
Tellement loin, il y a tellement de femmes qui n'ont pas été entendues que et puis de toute façon, tant que les jugements ne sont pas rendus, la présomption d'innocence existe en France. Je crois qu'après, simplement, il faut aller au bout des jugements et pas éluder.
Je devais faire un documentaire sur les hommes battus, je ne peux pas le faire. Je vous le dis. Ça, c'est une vraie.
Pourquoi tu ne peux pas le faire?
Parce que c'est un sujet trop sensible et puis qu'on n'en parle pas, quoi.
Ouais.
Faut pas en parler.
D'accord. Ok. Bon, on va parler du spectacle de Christina. On va parler du spectacle de Christina. Un spectacle qui s'appelle.
Je ne frappe pas les hommes.
Ils sont plutôt bien traités. T'as un fabuleux guitariste, un fabuleux accordéoniste sur scène et ils ont l'air d'être heureux d'être à tes côtés sur le plateau. C'est un spectacle qui s'intitule Inti. Inti, voilà.
C'est le dieu du soleil chez les Incas,
dans les peuples des Andes. Ce spectacle, il est monté à partir de l'album qui porte le même nom, qui est sorti il y a deux ans. Et comme d'habitude, ce sont tous les sujets qui te tiennent à cœur et qui nous emmènent en voyage parce qu'on va de l'Inde jusqu'au Brésil, en passant par l'Afrique, en passant par ton Espagne, on voyage
beaucoup
à travers
l'Amérique
le monde.
Du Sud, en fait, beaucoup les peuples autochtones aussi.
Oui, aussi.
Avec lesquels j'ai un petit peu collaboré. J'ai collaboré avec plusieurs peuples premiers.
Oui.
Le peuple huron Wendat au Canada, dans la réserve de Wendake, j'ai rencontré une conteuse qui s'appelle Okia. Donc, qui m'a à la fois appris le chant à la lune, qui m'a aidé à trouver mon tambour. Depuis, on a une très jolie collaboration. Le peuple Sateré-Maoué, en Amazonie, qui est un peuple qui fait vraiment. Qui travaille notamment sur le Warana avec une enseigne qui s'appelle Guayapi.
D'accord.
Qui est très intéressant. mais je vous dis ça parce que vous pouvez le trouver dans les magasins bio.
D'accord.
Et ils font un travail très, très intéressant pour essayer de faire vivre, entre autres, cette tribu-là.
Oui.
Donc là, c'est le chant d'une indienne qui s'appelle Claudia Ticuna, de cette tribu, qui m'a été offert en conseil des sages au cœur de l'Amazonie.
Est-ce que c'est ce peuple-là dont tu parles dans le spectacle qui a failli, si ce n'est disparaître, au moins déplacé parce que Bolsonaro voulait créer une autoroute à travers la forêt?
Ça fait partie des peuples, de toute façon, actuellement. actuellement, il y a un énorme souci de déforestation.
Oui.
Et avec la déforestation liée, entre autres, effectivement, à toutes les concessions qui sont faites aux gros trafiquants ou exploitants bois, etc. Il y a effectivement une grosse mise en danger des populations autochtones. Donc voilà, donc ça, c'est les satélites. Oui, il y a les coguilles aussi de Colombie, dont je parle dans cet album. Mm-hmm. Et également le peuple Zapoteco au Mexique, avec lequel j'ai collaboré sur les hauts plateaux de Oaxaca, pour une chanson qui s'appelle El Feo, qui veut dire le lait, mm-hmm. et que j'ai féminisé en disant la fea, exactement.
Fea.
Voilà.
Et ben, la fea, moi je vous propose qu'on l'écoute immédiatement, si le Captain Nifle veut bien nous l'envoyer. La voilà, la fea. Christina Rosmini.
Si te hablan de mí, muchachita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negra santa, diles que yo soy tu negra santa. Yo soy la fea que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy la fea que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Pagini cavenash paduawini, pagini cavenche pecinillo. Feuna, jindido dangana pati feuna, limananu da feungarana ji, rugi dubila jido, nezajagana neli, nanga ti feo, ti feungarana ji, rugi dubila jido, nezajagana neli.
Dépêchez-vous de rester jeune.
La Fea, extrait du dernier album Inti de Christina Rosmini, qui est avec nous et qui nous parle de son spectacle du même nom, qui se joue tous les mardis soirs à 21h.
À la Divine
Comédie, juste à côté des Folies Bergères. Mm-hmm. Gros carton, pour Carton, ça marche super bien. Bah, j'y suis allé la semaine dernière. il fallait se bousculer pour trouver une place tellement il y avait de monde, donc c'était très bien. Rappelle-nous un petit peu ton parcours artistique. Toi, tu as commencé, tu as été danseuse.
Oui, j'étais petite rat de l'opéra.
Ouais, à Marseille.
Danseuse. Ça. Ensuite, je suis partie vers la danse flamenca, la danse orientale. Bon, la chanson, c'était à la maison, parce que les familles immigrées, ça chante tout le temps.
Ouais.
Donc, espagnol, italien, corse, voilà, ça chantait. Puis les vieilles chansons françaises, surtout. Ouais. Alors, mes grand-mères, elles chantaient l'Hirondelle du Faubourg, Mon amant de Saint-Jean. Donc, j'ai été nourrie, pétrie à cette vieille chanson française. Puis mes parents, c'était plutôt les poètes, les Brassens, etc. etc. Donc voilà, donc j'ai le chant, la danse et puis le théâtre aussi, ce qui fait que quand je suis arrivée à Paris, je suis rentrée à l'école, d'abord à l'école de la SACEM, qui s'appelait le Studio des Variétés, c'était Alex Dutille d'ailleurs, qui était là en même temps que toi mardi dernier,
mardi dernier,
voilà,
exactement.
Qui était le directeur, et puis bon, à partir de là, j'ai rencontré Georges Moustaki, et puis j'ai fait des grosses aventures aux Folies Bergères, justement, avec Louret et compagnie.
Louret, les et années Twist, les années
Zazou, les années Zazou, etc. J'ai joué le rôle de Carmen, enfin, de très jolies aventures, et puis très rapidement, mon âme m'a dit « Non, il vaut mieux que tu fasses tes chansons, ton univers, quitte à avoir un public peut-être plus confidentiel, mais c'est voilà, ce que tu as à raconter au monde, c'est plus essentiel encore que de faire des grosses scènes avec des gens. » Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai recentré sur mon âme et je ne fais que ce que j'entends en prémonition. Donc j'ai cette immense chance, en fait, de ne faire que ce que j'aime.
Ouais, moi, je t'ai connu il y a une quinzaine d'années, à l'époque où tu avais sorti ton album Sous l'Oranger.
Oui,
c'est ça.
C'était en 2007, 2008, 2009,
quelque chose comme
chez
ça.
Chez le chant du monde, ouais, Harmonia Mundi.
Quelque chose comme ça, ouais. Et tu as toujours eu un univers empreint d'humanisme, d'ouverture aux autres.
C'est ce dont on parlait. Tu sais, je crois que voilà, c'est une manière d'être au monde. Hein,
Et en plus de ça, tu es très. Est-ce qu'on peut utiliser le qualificatif? Est-ce qu'on peut dire que tu es très politisé?
Oui.
Oui.
Oh, oui, c'est pas un gros mot.
C'est
hein,
pas un gros mot.
Ah, non, pas du tout. Moi, je dis politique et poétique.
Tu vois,
c'est un mélange entre les deux. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais une maman donc d'origine espagnole, mais qui nous a élevés, en fait, tout simplement, parce que mon père était très absent. Donc elle chantait du matin au soir. Et elle chantait, elle dansait dans la maison, et on aurait dit une fée. Et mon père, lui, par contre, c'était un homme politique. Hein, mon père, il a fait vraiment un énorme cursus. Et donc, il était là, il haranguait les fous, il était là devant 2000 personnes. Et moi, dans ma petite tête, je me dis, moi, je vais faire un truc, ce sera un mélange des deux. Je vais faire la fée, mais qui va dire des trucs? Donc voilà, j'essaye d'être la fée rouge. Un petit peu.
Et quand tu dis que tu as préféré te consacrer à ton répertoire, à ta carrière personnelle, plutôt que travailler dans des grosses machineries, est-ce que ça rejoint en fait le titre qu'il y a dans ton dernier album qui s'appelle I'm Not in the Mainstream?
Ah oui, c'est rigolo parce que c'est la seule que je chante pas sur scène. Mais c'est vrai, c'est ça. Bah oui, je me fiche complètement du mainstream. Moi, quand j'étais adolescente, j'écoutais essentiellement les Quilapayún, tu vois, Paco Ibáñez. Nazim Hikmet chanté par les poètes. Je me fiche du mainstream. Je fais vraiment ce que j'aime, ce que je ressens, ce qui me fait vibrer.
Ouais.
Si ça correspond à l'air du temps, peut-être tant mieux. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Ce qui est important, c'est d'être soi.
Ouais, encore une fois, on retrouve comme chez Bernie un esprit de liberté et d'autonomie en tout cas.
Total.
Je trouve des producteurs. D'ailleurs, tu es ta propre productrice.
Ah oui, depuis toujours.
Ouais, c'est ça. Ce qui te donne toi. La liberté de pouvoir écrire, chanter, dire, mettre en scène, faire ce que tu veux.
Pour le coup, il n'y a pas de censure. Alors là, c'est clair. C'est clair. Et puis voilà, ça me permet de voyager partout dans le monde et de faire une carrière atypique, mais très joyeuse.
Comment on fait justement quand on est autoproduit pour se rendre au Brésil, en Inde, dans ces pays-là, pour aller jouer?
Alors, il y a plein de manières, mais c'est vrai qu'à Marseille, tu le sais, il y a un salon de musique qui s'appelle le Babel Musique. Et j'ai fait de très jolies rencontres qui ont fait que, par exemple, je suis partie faire 18 concerts dans les CESC au Brésil. Enfin voilà, c'est des rencontres, tu vois. Comme je n'ai pas effectivement une énorme production et surtout un gros tourneur, ça se fait par... Les programmateurs m'appellent parce qu'ils entendent parler de moi et puis ça ricoche gentiment comme ça depuis un certain nombre d'années. Voilà, et ça m'amène sur les routes. Après, en Inde, c'est encore autre chose parce que j'ai un chemin spirituel qui m'a amené plusieurs fois en Inde. Donc j'ai chanté dans un énorme ashram, retransmis dans le monde entier. C'est des aventures un peu insolites comme ça, tu vois. Donc c'est très éclaté. Je chante beaucoup sur le pourtour méditerranéen avec notamment la fondation Annalint et le Forum Femmes Méditerranée qui sont des organismes qui ont. La fondation Annalint était une ministre qui a été tué par un fondamentaliste musulman il y a quelques années. Et cette fondation est donc subventionnée par l'Europe pour le vivre ensemble en Méditerranée et au-delà. Et donc, je chante beaucoup dans ce cadre-là. Je chante au Maroc, en Tunisie. Puis, j'ai fait les premières parties d'Enrico Macias au Caire. Enfin, bon, ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est une carrière authentique, intègre et voilà, qui me ressemble.
Musique du monde.
Musique du monde et chansons françaises.
Oui, oui, non,
c'est un peu entre les deux.
Oui. Tu as fait effectivement des très belles rencontres au cours de ta carrière, dont Étienne Rodagil.
Ah bah oui, Rodagil. Mais celle-là, je l'ai voulu, cette rencontre-là. J'avais rencontré à Marseille un gars qui était le pianiste de Bourringer, qui s'appelle Mams, Pierre-Marie. Et il a écouté ma musique, il m'a dit, écoute, moi j'ai envie de t'aider, qui voudrais-tu rencontrer? J'ai dit, ben, je rêve de rencontrer un Espagnol, catalan, catalaniste, passionné et passionnant, qui s'appelle Étienne Rodagil. Et 8 jours après, il m'a amené dans le restaurant où Étienne était là, avec sa grosse tignasse. Il me regardait d'un œil noir, tu vois, et puis à la fin du repas, il me fait, qu'est-ce que tu me veux? J'ai dit, ben rien, je voulais juste que vous sachiez que j'existe. Il me dit, tu chantes, bien sûr. Je dis, ben oui. Il dit, ben vas-y alors. Et donc je me suis dit, bon, je vais l'attaquer par la face nord, et j'ai chanté tous les chants de la guerre civile espagnole. Et là, bon, évidemment, ça a créé un lien très fort. Il s'est mis à chialer. Et puis après, voilà, après, il m'a accompagné pendant un an. J'allais le retrouver en Espagne. Enfin, très belle histoire.
Et tu lui rends hommage sur scène en reprenant cette chanson, À quoi sert une chanson si elle est désarmée, je vais être utile, de Julien Clerc. Mise en musique par Julien Clerc, que tu as adapté avec...
Que j'ai adapté en la mélangeant avec une chanson de Violeta Parra qui s'appelle Gracias a la vida. Et voilà, j'ai fait un mélange des deux. Mm-hmm. Et merci à la vie pour toutes ces rencontres complètement farfelues, improbables, mais qui font un chemin... riche.
Oui, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que cette liberté t'a permis aussi de monter, par exemple, un spectacle consacré à Garcia Lorca.
Entre autres, oui. Bah oui, depuis toujours, j'avais envie de raconter la vie de Lorca, mais par le prisme de son lien à l'enfance. Mm-hmm. Parce que c'est un poète qui est né avec le siècle, le siècle d'avant.
1898.
Voilà. Mais il était coquet, il disait qu'il était né avec le siècle, il s'est enlevé 2 ans. C'est vrai. Et du coup, si tu veux, bon, bah, il a fait partie des premières victimes de la guerre civile, puisqu'il a été tué 1 mois jour pour jour après le coup d'état de Franco.
Ouais,
et il a été tué pour 2 raisons. D'abord parce qu'il était républicain, lié au chef du gouvernement de la République espagnole. Et ensuite parce qu'il était homosexuel. Donc ça a été... Et donc j'avais envie... Donc il a toujours regretté son enfance, l'insouciance de son enfance. Et j'ai eu envie de raconter, donc avec ces mots, j'ai fait un spectacle, je n'ai pris que ces textes prémonitoires, et je les ai tricotés pour raconter un conte qui va du moment où il est fusillé au moment où sa mère Lune l'emporte de l'autre côté du miroir. Entre autres, voilà, j'ai des lubies comme ça, et je me fais plaisir.
On a parlé tout à l'heure de ton soutien à SOS Méditerranée, ainsi que celui de Bernie. Mm-hmm. On va écouter une chanson qui est dédiée justement à tous ces pauvres gens qui meurent en mer. Une chanson qui s'appelle « Sous nos pieds » et avec la chance que tu as eue d'avoir un compagnon de voix
qui est Relema, le pianiste d'origine congolaise.
Ouais.
Cette chanson, en fait, j'étais sur le bateau qui m'a mené de Corse à Marseille. Et au moment où le bateau part, justement, j'ai un appel d'un ami qui est un grand guitariste madrilène, José Luis Monton, qui m'annonce le décès de sa compagne qui vient de se noyer. Et du coup, je regarde la mer et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu remonter... les milliers et les milliers de cadavres, tu vois, de gens noyés en Méditerranée. Et j'ai composé cette chanson tout de suite. Et ensuite, je me suis dit, voilà, ça va parler...
sous nos pieds.
De ceux qui n'arrivent jamais.
Les pauvres gens de la côte, l'hiver, quand la mer est haute et qu'il fait nuit, ils viennent où finit la terre, voir les flots pleins de mystères et pleins de bruit. Lune frémit, l'autre espère, le vent semble une vipère. On pense à Dieu, par qui l'esquive vogue au sombre, et qui change en gouffre d'ombre, le gouffre bleu.
Attendre au bout du quai, comme on vient embarquer, les embruns dans le soir. Ont-ils eu vent de la fin de l'histoire? Et passent les saisons à défier la raison, à implorer l'horizon. Les aura-t-il vu chavirer dans les ténèbres déchirées? Et je crois qu'il y aura plus de larmes salées. qu'il n'y en a sous ses pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Attendre et croire encore quand le chagrin s'endort, qu'à l'envers. Qu'il n'y en a sous ses pieds jusqu'au fond de la Méditerranée.
On guette, on doute, on ignore ce que l'ombre et l'eau sonore au dur combat, et les rocs au trou d'éponge, pareils aux formes des songes, disent tout bas, et les femmes sur la grève se parle du vaisseau rêve en frémissant. Il est plein de clameurs vagues et traîne avec lui des vagues pleines de sang.
J'ai pris la route à tire-t-elle vers les rivages mordorés. Dans mon cœur, une caravelle que le silence a dévorée. J'ai pris le large sous la lune, mis la grand voile au vent d'espoir. Me voilà couronnée d'écume, glacée dans le bleu du miroir. Et je crois qu'il y aura plus de vagues salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous mes pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Et je crois qu'il y aura plus de larmes salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous nos pieds jusqu'au fond de la Méditerranée.
Comme le temps passe, dépêchez-vous de rester jeune.
Sous nos pieds, extrait de Inti, le dernier album de Christina Rosmini.
Oui.
Je t'en prie.
Relema, oui. En fait, j'ai oublié de dire que Relema, là, il dit deux strophes, oui, de La légende des siècles,
oui,
de,
bien
Victor
sûr, de Victor Hugo.
Hugo. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Que je trouvais aller parfaitement avec le thème de cette chanson. Ouais. Et peu de temps après avoir écrit cette chanson, il y a eu un drame dans la Manche. Justement, ça revient à ce que disait Bernie tout à l'heure, qu'effectivement, les problèmes ne sont pas méditerranéens, ils sont universels. C'est aussi tragique quand les gens veulent traverser le golfe du Mexique,
oui,
qui n'est pas le golfe de l'Amérique, mais oui, le golfe du, oui, Mexique, oui, ou la Manche. Hein. Et il y a une jeune fiancée qui allait rejoindre son amoureux. Et il ne savait pas qu'elle traversait, et en fait, elle a coulé.
Mmh.
Et le petit fiancé a dû passer son temps, hein, voilà, à attendre le retour de son aimé, et je me suis dit, c'est l'histoire de ma chanson.
J'imagine que ça n'a pas dû être trop difficile de convaincre Relema de participer à cette chanson.
Ah bah écoute, il m'a dit oui spontanément, ouais, j'ai été extrêmement touchée et heureuse, je suis allée enregistrer chez lui en plus.
Ah oui.
Oui, oui, oui.
Ouais.
Donc c'était un grand moment de partage.
Ton spectacle Inti, j'ai vu dans la plaquette de promo, j'ai vu une phrase qui dit « C'est l'esprit des femmes qui courent avec les loups ». C'est extrait d'un titre de livre de Clarissa Pinkola,
oui,
Estes, une Américaine qui est un best-seller aux États-Unis, qui est une psychanalyste et conteuse. Femme muselée, créativité.
Ouais.
Enfin,
Alors elle est moitié mexicaine, moitié hongroise, je crois.
Ouais,
hein,
ouais, ouais.
Et donc c'est une femme qui a écrit ce livre qui s'appuie sur les contes,
mm-hmm,
pour parler précisément de cette nature sauvage que nous portons tous en nous, cette créativité comme ça. Et pour moi, donc cette femme qui court avec les loups, ça m'a donné envie d'écrire cette chanson qui s'appelle La Louve,
oui,
voilà, et qui parle simplement de cette nécessité impérieuse que nous avons important de suivre nos rêves, justement, mm-hmm. tu mm-hmm. vois. Mm-hmm. Parce que si on ne le fait pas, si on ne suit pas, si on ne laisse pas s'exprimer notre créativité, le grand danger, c'est que cette louve qui est à l'intérieur de nous, mm. nous dévore.
Oui.
Voilà, moi, c'est malheureusement ce que j'ai vécu avec ma maman, qui était quelqu'un qui portait vraiment quelque chose de très, très fort artistiquement, mais qui, pour mille et une raisons sociales, éducationnelles, conjoncturelles, n'a pas pu laisser chanter sa louve. Et bon, ben, au bout d'un moment, ça l'a dévorée, elle a fait un énorme cancer, elle en est morte. Et moi, ben, je m'estime extrêmement heureuse quand je laisse chanter justement cette louve et qui m'amène à rebondir, mmh. tu vois, mmh. voilà.
C'est ce titre-là que tu accompagnes d'une scie musicale.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Bah oui, la scie musicale, on dirait vraiment un loup.
Oui, hein. oui, 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 oui.
Quand
oui.
elle veut bien chanter, parce que la semaine dernière, elle avait un petit souci, elle a un peu rechigné. Écoute, donc je lui ai parlé, elle est repartie.
Écoute, j'étais dans la salle, ça ne m'a pas sauté aux oreilles.
Bon, ça
donc, va. Il n'y a que
va.
Toi qui le sais et je n'ai rien entendu.
Non, ça va.
Je n'ai rien entendu. Malheureusement, sur ce spectacle, la scène est trop petite.
Oui.
pour que tu puisses y installer le vrai décor de ton
fait.
Spectacle.
Et tous les musiciens.
Alors,
là, on est en trio.
Oui,
on est en trio,
aussi.
Là. Ouais.
C'est vrai. Mais je voulais juste mettre un petit coup de projecteur sur la scénographie ouais. et le décor de papier.
Qui est magnifique.
Ouais,
Junior Fritz Jacquet,
oui.
qui est un origamiste incroyable que j'ai rencontré il y a quelques années.
Ouais.
C'était une très, très, très jolie rencontre. En fait, c'était au Canada
ouais.
et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans un décor de papier blanc. Et j'avais une robe de papier blanc, il y avait un éventail, il y avait des fleurs, etc. Je vois tout ça. Et le soir, où donc j'écris tout ça. Et j'en parle à Bruno Caviglia, qui est mon maritariste, qui est fils de mari et de guitariste. Et le soir où on atterrit, on va se promener en fait, sur des arcades, tu sais, de Doménil, mm-hmm. sous la coulée verte.
Oui.
Et Bruno me dit, mais regarde, il me dit, c'est exactement ce que tu m'as décrit. Je dis, ça alors, je contacte le gars par Facebook, il me répond instantanément, on mange ensemble le lendemain. Et tout ce que j'avais vu dans mon rêve, c'était dans son atelier.
Ouais.
Et donc, on a vraiment co-créé quelque chose comme ça pour la création de ce spectacle. Et depuis, Junior ben, est un partenaire fidèle et aimant. Et moi, je le lui rends bien. Et on essaye comme ça. Voilà, chaque fois que je fais un spectacle, il y a du mapping. Bon, là, effectivement, c'est trop petit. Il y a juste quelques petits éléments.
Oui, c'est ça.
Voilà, tout petit.
Mais qui donne une idée
voilà.
du travail de
c'est
ce plasticien.
Et quand
on regarde le teaser sur Internet du spectacle, teaser qui a été tourné à Marseille au théâtre Tourski,
tout à fait.
Sur une scène conséquente où là le décor
était déployé.
Entier ouais. et on se rend compte du travail et de la magie
fabuleux.
Que ce travail
et l'année dernière Junior a fait une exposition dans l'église de Compiègne
mm-hmm.
et on a fait un concert dedans et là il a végétalisé complètement la patinoire de Saint-Ouen et il en a fait un océan de papier, il appelait ça l'océan de Léa et on a également chanté là, donc c'est
formidable.
Très beau.
Ce qui est beau c'est que toi tu ne donnes pas que un concert, c'est que tes spectacles, ben voilà, c'est vraiment du spectacle complet, c'est-à-dire
oui.
qu'il y a de la mise en scène,
tout
il y a de
fait.
La scénographie, mmh. il y a de la lumière, il y a de la vidéo, il y a du décor, c'est complet, c'est pas juste je viens en scène, vous chantez mes chansons,
c'est un peu tout
théâtralisé
ça,
en fait.
Oh, très, 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 parce que c'est tout ce qui me plaît en fait, je me fais plaisir,
oui, oui.
il y a de la danse parce que j'étais danseuse, il y a du théâtre parce que je suis comédienne, et puis parce que
il y a des
pour
costumes.
Moi, il y a des costumes, exactement, et tout ça pour moi c'est un tout,
mmh,
tu vois,
mmh,
c'est un tout, mmh. alors un tout qui est modelable, puisque ouais. tu as vu qu'on peut en faire du trio, on peut le faire plus petit, on peut le faire, mais ça reste quelque chose qui est un objet à part entière, tu vois, avec mm-hmm. tous ces petits bouts de rêve qui agglomérés finissent par donner un tout.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Comment tu produis tes spectacles? C'est pareil, c'est comme tes disques, c'est toi aussi qui.
Oui,
qui
oui,
fait
oui.
Tout.
C'est Couleur d'Orange, c'est
ouais.
ma boîte à Marseille, donc il y a beaucoup de petites mains, il y a beaucoup de. Heureusement, de soutien, puis d'aide,
de solidarité,
et puis de mécènes, de subventions, etc.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est moi qui suis un peu la petite poule rousse de l'histoire, tu sais, qui plante le grain, qui l'arrose, qui récolte, voilà. Donc c'est un travail, ce qu'on appelle aujourd'hui d'artiste entrepreneuse. J'aime pas du tout cette expression.
Oui, mais c'est la réalité.
Mais c'est une réalité, malheureusement.
Tu as sorti trois albums,
alors
c'est ça,
trois albums de compos et sept oui. en tout.
Voilà. C'est pareil, c'est des projets à long terme à chaque fois, parce que le temps de sortir un album, de le faire tourner,
oui.
de monter le spectacle qui va avec.
Ah bah oui, c'est quand même 3-4 ans de vie, hein,
ouais.
minimum. Hein. Bah oui, tu parles entre la première note et la fin du projet, il y a au moins 3-4 ans. Hein.
Donc là tu es sur l'exploitation de
oui.
l'Inti, ça fait 2 ans que l'album est sorti.
Oui, ça continue sa route
gentiment.
Oui, là je vais faire la première partie, entre autres, de Michel Fugain au théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Voilà, donc ça va être encore une jolie aventure.
Le 25 juin.
C'est le 25 juin et en plus c'est très rigolo parce que mon mari, donc Bruno, est le guitariste de Fugain et ça n'a absolument aucun lien. C'est un truc de dingue. Le nouveau tourneur me dit voilà, j'ai une surprise pour toi. Et puis il me dit je te dirai l'artiste. Puis après il me dit c'est Fugain. Je dis mais c'est une blague. Il va penser que j'ai intrigué, que je l'aimais pas du tout. En fait, c'est vrai, voilà, c'est des petits cadeaux du ciel, quoi.
Donc, le 25 juin,
ouais, en première à Vaison.
Partie, Michel Fugain, avec tous tes musiciens.
Cette fois-ci, le quintet, total.
Alors, comment va faire Bruno?
Eh bien, Bruno va faire les deux. Il va changer de costume, exactement.
On va lui mettre une perruque pour ne pas le reconnaître, c'est ça.
Il va faire maritariste d'abord, et après, musicienne Fugain. Voilà.
Bon, c'est formidable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on va écouter dans quelques instants une chanson qui s'appelle « Mais pourquoi ?». Et on parlera, je voudrais que tu nous racontes tout à l'heure ce que tu as dit, ce que tu dis dans ton spectacle sur ta rencontre avec André Chédid. Mais tout d'abord, on va écouter « Mais pourquoi ?».
Tu dégages, tu sors, tu ne joues plus.
Mais pourquoi?
Tu as tous les torts, tu l'auras voulu.
Mais pourquoi?
Cette affaire a ressort et révolu.
Mais pourquoi?
Rien à faire, c'est mort et vermoulu.
Ah?
Je ne veux plus de ta tête en peinture.
Oh mais ça.
Je ne veux plus goûter tes confitures.
Oh là là.
Je te renvoie à ma littérature.
J'y crois pas.
Et retourne exulter dans la nature.
Toi?
Mais pourquoi? Pourquoi, dis-moi? T'avais si bien commencé. Comment ça? C'est assez. Qui donc aurait la panacée pour nous tirer de ce fossé? Mais pourquoi donc, dites-moi, tant de couleuvres à avaler? Du déni, que nenni, je trouve l'addition un peu salée.
Et voilà.
On aurait dit que tu étais ravie.
Porte quoi?
Tu aurais pu demander mon avis.
Ça va pas.
Je croyais que tu en mourrais d'envie.
Moi?
Je te jure que c'est bien mieux comme ça.
Ah mais toi?
Ça c'est sûr et surtout n'insiste pas.
Lâche-moi.
Je t'assure qu'il y a bien mieux pour toi.
Pas pour moi.
De toute façon tu ne me supportais pas.
Quoi?
Mais pourquoi tout ça, dis-moi? Pourquoi tout est si compliqué? Abdiquer, m'appelle Kay. Comment ne pas polémiquer? Quelqu'un voudrait-il m'expliquer? Mais pourquoi donc, dites-moi, des tragédies de quatre sous? Ça vaut quoi? Pas un clou de se triper.
Fille de ces vieux schémas qu'on réitère.
Tu dis quoi?
Terminé dans ma vie, ainsi sur terre.
On y croit.
C'est pourquoi, pourquoi ce soir je ne veux chanter que l'espoir. Au placard, nos histoires, le renouveau comme étendard. Et ce soir un petit rencard. C'est pourquoi dorénavant il ne faut chanter.
C'est vrai, on se reverra plus.
Sans remords.
Où t'en vas-tu, voyons, tu es pieds nus.
Je sors.
Non, mais non, puedo creer.
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Mais pourquoi? Mais pourquoi avec ce très bel accordéon argentin? Bandoneon argentin, extrait de
Sébastien Debar.
Oui, magnifique. Avant d'écouter ce titre, tout à l'heure, on parlait de tes rencontres et tu expliques dans ton spectacle, Inti, ce moment prodigieux où tu as rencontré André Chédid.
Que je te raconte cette petite histoire.
Que tu partages, s'il te plaît.
Bah écoute, c'était le jour de mes 25 ans, donc comme je dis sur scène avant-hier, dans 3-4 jours.
Oui.
Et en fait, j'avais rencontré un compositeur chilien qui s'appelait Osvaldo Torres et qui faisait à ce moment-là un travail avec Bernard Giraudot sur un des romans de André Chédid qui s'intitule L'autre et qui est l'histoire d'un tremblement de terre à Beyrouth, justement. Avec un petit garçon qui se retrouve orphelin de père et de mère, etc. Et il me dit, il y a des poèmes formidables, notamment texte pour un poème, poème pour un texte. Ce serait bien qu'on travaille dessus et qu'on fasse un album dessus. Et ce jour-là, j'avais une séance de studio rue de Seine. Donc je me balade rue de Seine et je vois une toute petite librairie, tu vois, une devanture rouge, mais vraiment minuscule. Donc je m'arrête devant et puis je me dis, mais non, elle est trop petite. Donc je pars à ma séance et le soir, je rentre. La libraire me dit, tiens, c'est curieux, elle me dit, je vous ai vu à midi, elle me dit, je vous ai remarqué, je savais que vous alliez revenir. J'ai dit, bon, j'ai écouté, est-ce que par hasard, alors, vous auriez des livres d'André Chédid? Et là, la libraire me regarde, me dit, mais vous plaisantez? J'ai dit, non, pourquoi? Elle me dit, bon, écoutez, regardez, tout le pan de gauche, là, vous voyez, tout le pan, ce ne sont que des livres d'André Chédid, des livres sur André Chédid traduite dans toutes les langues. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, ben, j'aimerais chanter ses poèmes, ça. Elle me dit, bon, déjà, je vous offre ce livre. Et puis elle me dit, asseyez-vous là. Donc, elle me fait asseoir à son bureau et elle passe un petit coup de fil. Et là, elle dit, excuse-moi, tu peux descendre, s'il te plaît? Et derrière le bureau, au fond de la librairie, s'ouvre une petite porte sur un escalier de bois et apparaît André Chédid, qui était la meilleure amie de Marthe Nocchi. Elle s'appelait la libraire. Et là, tu sais, c'est ce genre de moment où... Voilà, on parlait des planètes qui s'alignent, et là, tu te dis « Waouh !» Et donc, elle a été touchée par la démarche de cette jeune fille qui voulait chanter ses poèmes. Elle m'a offert absolument tous ses livres, elle est venue me voir, et j'ai fait des chansons.
Donc, tu as créé un spectacle autour
de... Non, j'ai juste fait, en fait, 2 ou 3 chansons, et puis après, bon, voilà, la vie a fait que les projets se sont enchaînés, c'était l'époque de Carmen, des Folies Bergères, tout ça. Je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, mais ce n'est pas dit que je ne le fasse pas un jour.
Ah, ben bah, pourquoi pas.
Et la phrase qui m'est restée, vraiment, la phrase, c'est celle-ci, que j'adore, que je dis sur scène, c'est la femme des longues patiences se met lentement au monde. Voilà.
Ouais, d'accord. Voilà. Bon, il faut de la patience.
Il faut du temps.
Pauline, on t'a pas encore entendu, mais tu nous disais hors antenne que du temps de France Inter, tu avais reçu à peu près toute la famille Chédid, ou fait venir à peu près toute la famille Chédid, sauf André.
Sauf André.
Oui.
Et avec beaucoup de regrets, parce que je connaissais un peu son travail et... Non, je suis commencée par Louis Chédid, après M, et après la sœur de M.
Oui.
J'ai plus son prénom en tête, mais aussi beaucoup de talent et une famille formidable, en tous les cas.
Oui.
Oui.
Grand-mère, père, enfant.
Juste cette famille.
D'ailleurs, je me suis trompée, excuse-moi, je fais un petit. C'est l'enfant multiple où l'enfant se retrouve orphelin, et l'autre, c'est l'histoire du tremblement de terre avec quelqu'un, pardon, hein, parce que je veux pas dire de bêtises. Sur les livres d'André Chédid.
Oui, ça, il ne faut pas dire de bêtises, parce que personne n'avait relevé quand même.
Oui, mais bon. Il doit y avoir quelques auditeurs qui disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte?
Autant Vincent Turban avait tout de suite reconnu le bandoneon plus que l'accordéon. Voilà, c'est ça, hein, Vincent. Mais,
oui.
Mais là, sur André Chédid, là, ça serait passé crème. Hein, on n'aurait rien eu à dire.
Mais je vous les conseille, en tout cas, ces deux romans.
Bien sûr.
Et le sixième jour aussi.
Bien sûr. Dans quelques instants, on va écouter le dernier morceau extrait de ton album, mais je voudrais qu'on en parle un petit peu. C'est le Conacol.
Ah, le Conacol.
Le Conacol.
Le Conacol, c'est un genre que j'ai découvert en Inde, justement.
Oui, ouais.
C'est un genre, en fait, de duel percussion-voix.
Ouais. Hein,
donc en Inde, il y a énormément de gens qui s'exercent, dont c'est la spécialité, de dialoguer comme ça entre des onomatopées extrêmement écrite, et des tablas. Voilà. Donc, je me suis amusée à apprendre. Alors, autrefois, quand j'étais élève du CIO des variétés, j'avais un professeur de percussion qui s'appelle Khalid Kouen. Et Khalid s'est amusé à me donner un conacol et un ganapati. Ganapati, c'est un hommage à Ganesh, petit dieu éléphant. Pareil, aussi en onomatopée. Et j'ai pris les deux, je les ai tordus, je me suis amusée pour faire précisément un texte, une chanson, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un morceau anti-passéiste. Mm-hmm. Pour dire que, bon, certes, aujourd'hui, ce n'est pas terrible, mais avant, ce n'était vraiment pas mieux.
On va écouter dans quelques instants cette chanson, mais je voulais revenir sur cette technique particulière du conacol, qui est quand même assez prodigieuse, que moi, j'ai dit, très honnêtement, je...
Tu connaissais pas. Je te conseille vraiment d'aller. Tu tapes conacol, pas du tout le mien. Hein, je veux dire, tu vas découvrir des grands conacol indiens. C'est absolument fabuleux.
Je me suis renseigné un petit peu sur la chose et je pense qu'après cette émission, je vais de suite m'y mettre parce que c'est absolument prodigieux. On ne sait pas. Alors, Vincent, tu connais toi ?
Je connais un petit peu la musique en provenance d'Inde.
Oui.
C'est un système musical très complexe. Mm-hmm. On ne peut même pas parler d'idiome ou d'art musical. Enfin, si, en fait. Si, c'est un idiome musical, mais c'est carrément un art.
Un langage aussi.
C'est un art et un langage. Et en plus, de surcroît, les instruments en provenance d'Inde, mm-hmm. qu'ils soient percussions, que ce soit les tablas ou les dolls, ou les instruments à cordes comme le vina, le sitar ou le tamboura, ce sont des instruments d'une complexité et d'une difficulté de maîtrise. Il faut plusieurs années, voire même plusieurs décennies pour apprivoiser par exemple les tablas, qui sont parmi, à mes yeux, les plus belles percussions sur Terre.
Bernie, ça te parle la musique indienne ?
Non, pas du tout. Mais je pense que l'instrument dépend aussi du mec qui est derrière, hein, quand même beaucoup.
Absolument.
Tu peux avoir le plus bel instrument du monde, si le mec derrière c'est une balle, ça sert à rien.
C'est sûr et certain.
En tout cas, c'est cette musique qui a nourri les gitans ça a donné le flamenco vient de là. Hein.
Bien sûr.
Au 9e siècle, les gitans sont partis du Rajasthan. Dans chaque pays où ils sont passés, ils ont pris des instruments locaux. Uh-huh. Le violon en Hongrie, l'accordéon en Mani, etc. Les castagnettes en Égypte. Et puis, ils se sont sédentarisés en Andalousie. Et le flamenco, clairement, on l'entend dans les frappes de pied qui peuvent évoquer le katak ou le bharatanatyam. On le voit dans les postures des mains. Et puis, effectivement, dans les découpages. Parce que les découpages pas sur 12 temps, etc., qui sont quand même
Et le thème donc de cette chanson, le conacol du bon vieux temps, c'est un peu...
Oui, c'est de me foutre un peu de la... ceux qui disent c'était mieux avant, précisément, parce que voilà, c'est mieux avant. Moi, mes grands-parents, ils vivaient dans des conditions très difficiles. En Corse, c'était la misère noire. En Espagne, ils sont partis, avec des guerres civiles, des guerres tous les 25 ans, qui décimaient les populations, des maladies, etc. Donc, je dis pas que c'est chouette, loin de là, tout ce qui se passe, loin de là, on en a déjà parlé, mais le fait de passer son temps à avoir comme ça ce rêve d'un passé idéalisé, ça me correspond pas.
D'accord. On écoute le conacol du bon vieux temps.
Avant c'était le bon temps, avant c'était quand? À l'époque où ton grand-père trimait dans les champs, quand on labourait la terre de l'aurore au couchant, qu'on gelait dans les chaumières sans chaudière, sans lumière, et se lavait à la rivière quel que soit le temps. À l'époque où ta grand-mère mourait sans traitement, qu'elle avait porté en terre 3 ou 4 enfants, ou qu'on enterrait les mères après l'accouchement, et qu'on faisait sa prière aux arracheurs de dents. Vraiment c'était mieux naguère, vraiment c'était le bon temps, vraiment c'était mieux avant. C'était quand? Quand on pendait sur les places et sans jugement, qu'on tremblait, demandait grâce sous le joug des tyrans, qu'on craignait Dieu et son père, les brigands et le sergent, et qu'on s'en allait en guerre tous les 25 ans.
Saute donc dans la machine à remonter le temps. Phélomone, fais la guerre de 14 ou de 100 ans. Si tu regardes en arrière, tu verras tant de misère en été comme en hiver. De fagots dans les clairières, de linge dans les rivières, d'allumeurs, de réverbères, de gamines, filles, mères, de gamins au cimetière, de tranchées, de civières, de sang séché sur les pierres, de larmes sous les paupières. Dis, tu te plains maintenant. Didi kertakta kta da didi kertakta. Didi kertakta kta da da. Dikeneta kertana kertakta. C'est quoi ce passé que tu regrettes tant? Ce serait pas ta jeunesse, celle de tes parents? Déjà le brave Épicure se moquait du bon vieux temps. Didi kertakta kta da didi kertakta. Le plus drôle dans l'affaire, c'est que demain tes enfants, en regardant en arrière, en parlant de ton vieux temps, diront c'était mieux naguère, diront c'était le bon temps, diront c'était mieux vraiment, c'était mieux avant. Didi karatak tak ta da didi karatak tak ta da da didi karatak tak ta da 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 di kaneta kartena tak tak ta tak kartena da na 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 didi karatak tak ta da da na 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 didi karatak tak ta da da na 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 didi karatak tak ta da. Vraiment c'était mieux naguère, vraiment c'était mieux avant. Mais avant quoi? Avant quand? Avant qui? Avant comment? Vraiment c'était mieux naguère, avant c'était le bon temps, vraiment c'était mieux avant, avant c'était quand?
Et oui, comme le temps passe. Dépêchez-vous de rester jeune.
Le Conacol du bon vieux temps, extrait de l'album Inti de Christina Rosmini. Bernie, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'était le bon temps avant? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Avant, on a deux minutes pour répondre à cette question.
Moi, j'ai vécu les dix flamboyants, donc ouais, je dirais oui.
C'était mieux avant?
Oui, en oui. Musique, tout s'est fait entre 65 et 75.
Ouais, toi, t'es de la fin des années 50, donc t'as connu ouais. Les années 70, ouais. La folie rock'n'roll.
Ouais. Quand on pouvait fumer, rouler vite, enfin ouais. Plein de choses.
Rock'n'roll quoi?
Non, pas nécessairement rock'n'roll, mais déjà plein de choses.
Ouais, ouais. Mm. Tu regrettes?
Non, je regrette pas, mais c'était bien. Non, c'était chanel. Non, c'est vrai, c'était chanel. Les gens étaient plus impliqués politiquement, ouais. les gens étaient syndiqués, il y avait du travail.
Ouais, ouais. Toi, t'es né à Nanterre, c'est ça, tu viens de Nanterre.
Ouais, je viens de Nanterre.
T'étais une ville qui était aussi très politisée. Une
ah
ville
ouais, moi j'étais. J'ai grandi entre la fac et le plus grand bidonville d'Europe.
Ah ouais, quand même. Mmh. Quand même. Ouais, d'accord. Ouais. Donc de quoi se créer une bonne conscience politique?
Ouais, déjà, ça. Ouais. C'est vrai que, enfin voilà, là on parle de musique, mais que ce soit le cinéma, la littérature. Toutes les grandes choses, le reste justement, c'est de la littérature.
C'est de la littérature.
Non, mais sérieux.
C'est de la littérature.
Regardez, hein, c'est factuel.
Ouais. C'était pas mieux avant, Christina?
Ah non, non. Vraiment pas. Non,
toi,
non, je pense que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tellement de délations que les Allemands se frottaient les mains parce que les gens se dénonçaient entre voisins. Alors après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de travail, bien sûr, et c'est évident. Mais pour moi, non. Pour moi, la misère, la bêtise humaine a toujours été là. Oui. Et je pense qu'il faut surtout regarder devant, oui. Et se dire derrière, ben, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était pas mieux? Ça dépend pour qui, ça dépend quand, ça dépend, tu vois. Voilà, oui. Chacun a son histoire. Je pense que globalement, c'était pas mieux pour l'humanité.
Oui, pour l'humanité.
Voilà,
en général.
Si on parle oui. Au sens macro. Oui. Par contre, qu'est-ce qu'on va en faire de cette humanité-là? Qu'est-ce qu'on va faire dans les années à venir? C'est plus ça qui m'intéresse, finalement, ouais, ce qu'il y avait derrière. Ouais,
ouais. Ben, on se donne rendez-vous dans...
200 ans?
Oui, c'est ça. Bon.
Oui, après Bernie, quelques réincarnations.
Bernie fait la moue, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas
après
pourquoi.
Après quelques réincarnations, moi, je te propose.
Moi, je serais assez d'accord pour qu'on se retrouve, dans 200 ans, Radio Libertaire, pour faire la suite de cette émission et voir un peu comment le monde aura évolué.
Vision,
on regardera ça de loin.
La vision lune ou la vision soleil a gagné.
Les amis, nous abordons, on voit au loin apparaître les côtes les côtes marseillaises, les belles côtes, les calanques marseillaises. Notre paquebot va bientôt aborder. J'en profite pour reciter Parole d'enfant syrien, La misère entre deux jardins, qui est le très joli documentaire de Bernie Bonvoisin que vous pouvez trouver très merci. Facilement sur YouTube. Les deux autres documentaires, sur celui sur LCP, je ne sais pas pourquoi on ne peut plus le voir, mais on essaye de, on va faire en sorte qu'on puisse les retrouver parce que oui. Vraiment, si, ils sont très regardés. regardables et très touchants, et il faut vraiment les voir, ces documentaires-là. Christina Rosmini, l'album Inti, qui est toujours en vente, et tous les mardis soirs à 21h à la Divine Comédie jusqu'au 17 juin. Et puis après, le 25 juin, et également, n'oublions pas, en concert, en première partie de Michel Fugain, avec son guitariste Bruno Caviglia, qui est aussi son mari, qui joue avec Michel Fugain également. Mais ça, voilà, on, et il n'y a, y a aucun favoritisme, ça, on peut l'assurer. N'hésitez surtout pas à aller sur toutes les plateformes. Cet album Inti est écoutable sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, un petit peu partout. Si vous voyez Christina Rosmini en concert, allez la voir. Propaganda de Trust est également écoutable aussi sur toutes les plateformes, n'hésitez surtout pas. Merci à vous, merci Vincent, merci Pauline, merci Capitaine. Et d'ici là, semaine prochaine, dans 15 jours, Charles-Élie Couture et Christine Béroux seront nos invités. D'ici là, dépêchez-vous de rester jeunes.
Dépêchez-vous de rester jeunes.